On accueille donc Aurélien Baron, qui est physicien, Jérôme Rosanvallon, philosophe, et qui vont nous entretenir donc de cosmogénèse à partir de Guattari.
Bonjour, donc merci d'être venu. Donc voilà, l'idée de cette séance, c'est un petit peu de, comme on l'a expliqué dans le résumé, de prendre un peu la direction inverse de la direction habituelle, qui est toujours d'aller de la physique vers la philosophie, pour voir un petit peu les contraintes. Et bon, là, on va aller plutôt de la philosophie à la physique. Donc ça va être assez, il faut s'attendre à quelque chose d'assez métaphysique, hein. C'est bon, est-ce qu'on peut appeler de la métaphysique pure, mais bon, j'espère que vous serez sensible Aurélien va compléter avec des éléments plus physiques, même si c'est un domaine qui est à mi-chemin entre physique et philosophie. Mais voilà, ce qui est important, c'est d'être sensible à la... C'est pas parce qu'il n'y a pas d'équation qu'il n'y a pas une cohérence et une logique du propos. Voilà. Donc c'est ça qui m'intéresse de vous montrer comment tenir un discours métaphysique pur qui peut intéresser la science, donc en s'appuyant sur la philosophie de Deleuze et Guattari. Alors la philosophie de Deleuze et Guattari est souvent assez, méconnue. Le problème, c'est que les Deleuze-Guattariens connaissent peu la science. Il n'y a pas beaucoup d'études qui sont faites entre Deleuze et la science, alors qu'aux États-Unis, c'est assez répandu. Et inversement, les physiciens connaissent assez peu la philosophie de Deleuze-Guattari, qui est souvent, qui a un abord, on considère que c'est une philosophie politique, avec l'anti-Oedipe paru en 72, ni Plato paru en 1980. Et bon, en fait, je voulais vous montrer, c'est qu'il y a une ontologie fondamentale qui est sous-jacente, qui se confronte de très près à la science dès l'anti-Oedipe, et qui est encore plus nette dans leur dernier ouvrage en commun, qui est « Qu'est-ce que la philosophie ?», hein, dont là j'ai une petite édition de poche, paru en 91, et voilà, c'est un bouquin qui a une très grande puissance, que bon, je conseille à tous les physiciens de jeter un œil, même si on peut être désarçonné comme ça par leur conceptualisation, c'est assez désarçonnant, mais... Voilà, l'intérêt de cet ouvrage, c'est de redéfinir les rapports entre philosophie et science, c'est-à-dire sous l'intitulé « Qu'est-ce que la philosophie ?». Il y a une redéfinition de la philosophie, mais la philosophie est redéfinie par rapport à la science, par rapport à l'art, et ils établissent un nouveau rapport entre les deux. Ça qui m'intéresse, c'est un rapport qui n'est plus seulement épistémologique, c'est-à-dire la philosophie qui viendrait simplement réfléchir sur les conditions d'énonçabilité ou de vérifiabilité des théories scientifiques. Tout ce que fait un peu la philosophie depuis Kant, quoi. Le côté, on se contente de réfléchir des... Or, l'idée, c'est que, précisément, la philosophie n'a pas pour objet seulement la connaissance, ou elle ne vient pas en second plan, derrière, après la science. Ce qu'ils mettent en lumière, c'est que justement les physiques, donc la science et notamment la physique, comme la philosophie, ont fondamentalement le même objet, la nature ou l'en soi des choses. Voilà. Donc il y en a pas une qui vient après l'autre. Et donc elles se complètent dans la façon dont elles vont recouper, dont elles vont dire quelque chose de cet objet. Alors ce qui change entre les deux, c'est quoi? Donc c'est pas leur objet, mais c'est les outils. Les outils employés pour appréhender cet objet, pour appréhender la nature, et pour constituer un plan. Un plan dont Deleuze et Guattari parlent de plan d'immanence pour la philosophie et plan de référence pour la science. Donc c'est un plan, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce n'est pas seulement un plan de connaissance, c'est vraiment un plan qui est à la fois, qui mêle épistémologie, gnoséologie et ontologie. C'est un plan où objet de la connaissance et connaissance de l'objet... Être et penser se confondent absolument. Hein, donc le plan d'immanence, c'est pas seulement quelque chose que trace la philosophie, le plan de référence, c'est pas seulement quelque chose que trace la science. Il faut bien comprendre, c'est que c'est le mouvement même des choses, le mouvement même de la nature qui produit ces deux plans, mais selon deux mouvements différents. Bon, on verra, c'est assez proche, c'est un petit peu dans la lignée bergsonienne. Alors bon, là je vous pose des choses très de façon comme ça assez dogmatique. Je ne sais pas si vous lisez bien, là, c'est peut-être un peu dense. Bon.
On peut lire pendant que je parle, c'est pas l'idée.
Oui, vous pouvez lire pendant... Non, mais là, simplement...
Il n'y a peut-être pas assez d'obscurité dans la pièce, là-bas, au fond, vous disiez, ouais.
Pour mettre les grandes lignes, je veux dire, ça ne va pas vous dire grand-chose pour l'instant, et c'est pas... On va y revenir en détail, simplement, voilà, pour Deleuze Guattari, la physique crée des fonctions, la science de façon générale, mais là, la physique crée des fonctions, c'est-à-dire met en équation des variables au sein de l'espace ou plan de référence, On va un peu, on analysera un peu ce que ça veut dire. Tandis que la philosophie crée des concepts. Hein, le problème, c'est faut savoir exactement ce qu'on entend par concept. Tout ça est absolument redéfini par Deleuze et Guattari, c'est-à-dire des domaines de variation. Bon, ça, on verra avec la notion de variation pure, en réponse à des problèmes au sein du plan d'immanence. Voilà. Bon, c'est pour le cas de façon générale pour l'instant, que ça ne vous dise pas grand-chose, c'est normal, on va le voir au fur et à mesure, on va le voir en acte, en fait. Peut-être, tu veux faire un préambule justement sur l'intérêt, toi, de ton point de vue de...
Oui, alors on peut dire quelques mots. Bon, moi d'abord, je voudrais dire que je suis très content d'être là, et je suis très content que ce groupe de travail existe, parce qu'il y a un véritable mélange des rôles. Et à écouter les émissions enregistrées, parce que j'ai pas pu venir à la plupart des séances, c'était très agréable parce qu'on savait pas. On savait pas qui était physicien, on savait pas qui était philosophe, on savait pas exactement à qui était destiné le discours. Et à la fin de la séance dernière, j'ai eu des échanges très vifs avec quelqu'un sur la décohérence, on n'était pas du tout d'accord. Je ne savais pas s'il était physicien ou philosophe, il ne savait pas si j'étais un spécialiste du domaine ou si j'étais un philosophe qui s'aventurait hors de son domaine de spécialité. Et je trouve que finalement c'est très agréable, parce qu'en écho au titre de la dernière séance, c'est peut-être là qu'il y a une véritable émergence. Voyez, on est tous pris dans un espèce de devenir commun, pour prendre une expression de Deleuzienne, un devenir physicien et philosophe. D'ailleurs, Deleuze avait de cesse de rappeler que ce qui l'intéressait chez Guattari, c'est qu'il n'était pas philosophe de formation, et que pour cette raison, il avait une utilisation très pointilleuse et très méticuleuse des concepts philosophiques. Alors, je trouve qu'il y a donc dans cette séance une sorte d'insécurité du discours. Voilà. On ne sait pas qui on est, on ne sait pas à qui on parle. Ça s'entend d'ailleurs chez tous les intervenants. Eh bien, je voudrais revendiquer cette insécurité, vous voyez. Prenez-le comme une espèce de ligne de fuite dans l'état Sarkozy. C'est un petit clin d'œil au dernier pamphlet de Badiou. Autrement dit, comme une sorte d'insécurité et de désordre revendiqué et assumé. Donc, je vais essayer d'être clair quand même. Hein. Jérôme est cosmologiste et je suis le spécialiste de Deleuze. Alors, je serais content qu'il s'agisse de Deleuze aujourd'hui pour deux raisons. Je crois que Deleuze a deux grands mérites. Le premier, c'est d'être un grand philosophe, on va y revenir. Le deuxième, c'est de s'être fait épingler par Sokal. Alors, je voudrais dire quelques mots de ce deuxième aspect que je mentionne en boutade. Mais je crains en effet que dans une certaine mesure, Sokal ait un peu gagné sa guérilla. C'est-à-dire que je crois qu'on est encore dans les contre-coups de cette triste affaire, et c'est important quand on essaye de penser aujourd'hui la philosophie des sciences. Postmodernisme, c'est devenu un mot complètement interdit ou exclusivement péjoratif. Chacun doit se réclamer quelque part dans son discours de la lutte contre le relativisme ambiant. Quel relativisme ambiant d'ailleurs? Je trouve au contraire que l'époque est extraordinairement normative, hein, Bouvresse oblige. Retour aux choses sérieuses, prudence sur les métaphores, les métonymies, les analogies, les décontextualisations. Récemment, je co-organisais à Lyon un petit colloque philosophie et cosmologie avec Daniel Parocchia, et l'un des intervenants, philosophe, avait nommé son discours « La déraisonnable prudence des philosophes en matière de philosophie ». J'aime beaucoup ce titre. Je crois que c'est exactement de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de sclérose de la pensée qui se répand un petit peu, heureusement pas chez tout le monde, et pas ici, je trouve, et qui, et vis-à-vis de laquelle, moi je voudrais revendiquer contre ça une espèce de filiation presque derridienne, c'est-à-dire un droit à la citation, une sorte de devoir d'itérabilité, parce que qu'on le veuille ou non, finalement, cette itérabilité est toujours là. Ou pour le dire plutôt dans des mots deleuziens, une sorte de nomadologie du sens. Voilà. Alors je crois que notre entreprise d'hybridation, ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui, c'est finalement très en accord avec ce que Deleuze définissait lui-même comme son enjeu. Je cite une courte phrase de Pourparlers. La question qui nous intéresse, c'est pour mille plateaux, c'est de voir s'il y a des résonances, des causes communes avec ce que cherchent des écrivains, des musiciens, des peintres, des scientifiques, des philosophes. Donc l'enjeu est clairement placé. Alors, en un certain sens, c'est évident, la physique n'a pas besoin de philosophie. On peut le dire comme ça, d'ailleurs Deleuze le dit à plusieurs reprises. Il n'en demeure pas moins qu'on peut prendre le contre-pied de cette assertion, soit comme Jérôme le propose, en inversant un petit peu la logique ou l'engrainement habituel. Je suis assez d'accord avec ça, tant que ça reste peu prescriptif. On peut aussi le reprendre dans un sens assez usuel à partir du moment où on sort de l'image de l'exégèse. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on peut faire, on peut philosopher avec le matériau scientifique, ce qu'on fait peu aujourd'hui, hein, avec le matériau philosophique du XXIe siècle, ce qu'on fait pas assez à mon avis. Et ça devient intéressant précisément à partir du moment où on ne s'en tient pas à une simple activité définitoire. Voilà, c'est en tout cas mon avis, précisément parce que l'événement qui nous intéresse est illocalisable, voilà, y compris temporellement. Donc je crois que ce qu'on va essayer de faire, c'est un peu de se déterritorialiser. Il me semble que la plupart des physiciens connaissent assez mal Deleuze, et je vais conclure mon introduction là-dessus. Les concepts dont il va s'agir ici, et c'est juste un petit point de vocabulaire que je voudrais souligner, ne coïncident pas, me semble-t-il, avec ce que la plupart des philosophes appellent concept. C'est-à-dire qu'on est très très loin chez Deleuze du concept nietzschéen comme identification non identique, par exemple. Et Foucault, par exemple, qui était un philosophe très proche de Deleuze, luttait contre les concepts au nom d'un, luttait contre la conceptualisation au nom d'un certain nominalisme, mais ce n'est pas du tout le concept deleuzien qui est en cause ici. Ce serait le concept au sens nietzschéen. Vous voyez, chez Deleuze, les concepts, ce n'est pas ça. Ce n'est pas essentiellement, me semble-t-il, cette activité de subjonction. C'est une multiplicité. Voilà, c'est quelque chose qui renvoie à des composantes, à des connexions, qui sont à la fois distinctes, hétérogènes et qui sont en lui. Et je voudrais citer cette petite phrase qui a l'air complexe, mais qui en réalité est très simple et qui définit parfaitement la chose. Le concept n'est pas paradigmatique, mais syntagmatique. Le syntagme, c'est un petit groupe de mots, hein, c'est pas encore une phrase. Il n'est pas projectif, mais connectif. Il n'est pas hiérarchique, mais vicinal. Pensez à ces petits chemins sinueux entre les villages. Il n'est pas référent, mais constituant. Et donc, c'est pas du tout le concept comme on pourrait le penser usuellement. Voilà, donc à mon sens, le défi métaphysique qui nous intéresse et auquel invitent les avancées récentes de la physique théorique en particulier, je crois qu'il consiste à concilier rapport à l'altérité et dimension démiurgique. Voilà, ce que je veux dire par là, c'est que le réel n'est évidemment pas purement contractuel, évidemment pas, quelque chose s'impose à nous, quelque chose nous surprend, nous détrompe, mais le mode d'interrogation, le type de rapport, le fonctionnement relationnel avec le réel, lui, est dans une grande partie arbitraire. Et ce que je nous propose, c'est d'essayer de voir comment les créations de Deleuze-Guattariennes permettent d'agencer un petit peu ces modes d'interrogation du réel.
Très bien. Donc, pour reprendre cette idée de rapport, de nouveaux rapports à établir entre physique et philosophie, donc, comme je le disais, souvent, notamment dans ce séminaire, la direction, le mouvement est allé c'est le mouvement habituel, est allé de la physique vers la philosophie pour voir à quel point les avancées de la science, notamment la physique contemporaine, induisent des contraintes sur la philosophie. Hein. Étienne Klein aime rappeler ce mot de Merleau-Ponty, la science produit des découvertes philosophiques négatives, c'est-à-dire l'ensemble des impossibilités de penser ce qu'on ne peut plus penser du fait de la science. Donc là, je prends pour exemple un exemple qu'on a plusieurs fois vu autour de ce séminaire, l'inexistence d'un temps de référence et même d'une durée unique, valable universellement du fait de la relativité de l'instinct et de la relativité générale. Bon, je reviendrai là-dessus dans un troisième point pour essayer de faire un peu une synthèse de tout ce qu'on a vu sur le temps et donc à la fois issu de ces contraintes opérées par la physique contemporaine, mais aussi issu de la logique inhérente au discours de Deleuze-Guattari, même si ils n'envisagent pas la question du temps, parce que ce n'est pas une question qui les intéresse en tant que telle, justement, parce qu'il l'a déconstruite, on va voir ça. Voilà, donc on y reviendra dans un dernier temps. Mais là, ce que j'aimerais faire dans un premier temps, c'est prendre le mouvement au sens inverse, c'est-à-dire le fait que les avancées de la philosophie, parce que la philosophie aussi, c'est la métaphysique est en avance constamment, il y a un progrès de la métaphysique, je crois beaucoup à ça, qui peuvent, et pas du tout des questions philosophiques éternelles, pas du tout philosophia pérennis. Donc voilà, les avancées de la philosophie peuvent aussi induire des contraintes sur la physique, et notamment sur la cosmologie contemporaine. C'est-à-dire des exigences spéculatives rigoureuses inhérentes à la philosophie peuvent servir de guide sélectif dans le foisonnement des spéculations physiques qui résulte du passage de la cosmologie du XXe siècle à la cosmogenèse du XXIe siècle. C'est-à-dire non plus seulement le problème de la dynamique de l'univers et de la genèse successive de ses composantes, mais le problème de la genèse de l'univers lui-même comme produit d'une réalité plus vaste que lui, le multivers. Voilà, donc un guide sélectif qui n'est pas non plus prescriptif, mais qui peut permettre de choisir bon, effectivement le foisonnement de spéculations physiques qui sont de plus en plus forcément déconnectées de l'expérience, ce qui n'empêche pas qu'elles ont aussi leur logique propre, leur voilà. Donc c'est une contrainte qui se veut, qui c'est pas du tout non plus une façon de réintroduire un rapport de fondation. La philosophie n'a absolument pas à fonder la science qui se fonde et s'autofonde et ne cesse de se fonder elle-même. qui fonde son plan de référence, et la philosophie elle est dans le plan d'immanence, mais voilà, il y a des rapports de même qu'on ne peut plus philosopher sans faire attention à ce que dit la science, notamment la science qu'on voit. Je pense aussi que voilà, il peut y avoir il est intéressant de voir comment la logique d'un discours métaphysique pur peut introduire des contraintes. Alors, on va essayer de voir. Donc, premier impératif philosophique, voilà, c'est le plan d'immanence, donc l'immanence absolue. Alors, je commence par une citation de Qu'est-ce que la philosophie ? J'en ferai pas trop, hein, parce qu'on n'est pas là pour faire du commentaire de texte. Je préfère extraire les idées, la logique du discours, plutôt que de faire du commentaire comme font souvent les philosophes. Mais quand même, cette phrase est une belle phrase. De l'immanence, on peut estimer qu'elle est la pierre de touche brûlante de toute philosophie, parce qu'elle prend sur soi tous les dangers que celle-ci doit affronter, toutes les condamnations, persécutions et reniements qu'elle subit. À première vue, on ne voit pas pourquoi l'immanence est si dangereuse, mais c'est ainsi. Elle engloutit les sages et les dieux. La part de l'immanence ou la part du feu, c'est à cela qu'on reconnaît le philosophe. L'immanence ne l'est qu'à soi-même, et dès lors prend tout, absorbe tout un, et ne laisse rien subsister à quoi elle pourrait être immanente. Ça, on va commenter, on va y revenir. Mais voilà, je voudrais juste... elle engloutit les sages et les dieux pour insister sur le fait que... Enfin, voilà, cette phrase de Kant, j'ai dû abolir le savoir pour laisser la place à la croyance, c'est, pour moi, c'est l'une des phrases les plus scandaleuses qui a été écrite, même par un immense philosophe. Et voilà, il n'y a pas, entre le discours de la science et le discours de la philosophie, il n'y a pas de place pour un discours théologique. Voilà, c'est pas, il n'y a pas un au-delà qui est théologique. On peut, les deux ont un discours absolu sur l'en-soi des choses et ne laissent place à rien d'autre. C'est ce que dit tout, d'où le fait que c'est si dangereux, mais voilà. Donc, première analyse en détail de ce que veut dire immanence absolue, quelles sont les contraintes de pensée que ça implique. Alors, le plan d'immanence comme seul absolu de la philosophie. L'immanence absolue n'est ni une hypothèse, ni un postulat, ni même un concept pensable parmi d'autres, mais la condition même de la pensée philosophique. Elle en est à la fois le corrélat inévitable, l'acquis irréversible et la tâche propre. Sans immanence, pas de philosophie, et vice-versa. Les deux sont absolument connectés, liés. Produire une philosophie revient ainsi nécessairement à instaurer cette immanence absolue que Deleuze Guattari nomme plan d'immanence. Et cela, donc plan d'immanence, ça veut dire immanence absolue. Hein. Et cela, même si toute philosophie n'en prend pas explicitement la mesure, c'est-à-dire qu'elle peut rester prise dans les illusions de transcendance inhérentes au plan et contribuer même à les entretenir. Je fais allusion à un point qui est développé dans Qu'est-ce que la philosophie, en disant que même quand le philosophe prétend réintroduire la transcendance, discours sur la transcendance, etc., il trace toujours de façon sous-jacente un plan d'immanence, même si il n'en prend pas forcément la mesure, il n'en a pas conscience. Tous les philosophes ont fait ça.
Tu vas expliquer un peu le mot immanence.
Je vais expliquer, bien sûr. C'est voilà. Première approche. Donc justement, voilà, immanence, qu'est-ce que ça veut dire ? Première approche, un petit peu, intuitive. Première approche de l'immanence par une définition. Donc le problème, c'est que c'est une définition. Cette première approche n'implique qu'une définition triplement négative, parce que évidemment, c'est assez facile de dire l'immanence, c'est dire il n'y a pas de transcendance. Mais bon, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas beaucoup avancé. Donc, de façon un peu plus précise, elle consiste à affirmer que rien n'existe, sinon une nature ou réalité qui ne peut être en tant que telle finie, donnée ou immuable. Voilà, ça je vais revenir sur chacun de ces points. Pourquoi aucune réalité ne peut être finie, donnée ou immuable ? Et pourquoi il n'existe rien d'autre que ça ? Alors, c'est d'abord un petit détour par la source de l'immanence. Spinoza, première mise en œuvre et en pratique de l'immanence absolue. Encore une petite citation de Qu'est-ce que la philosophie, qui est assez belle. Je ne vais pas rentrer dans le détail de Spinoza, mais c'est quand même... Spinoza, le devenir philosophe infini, il a montré, dressé, pensé le plan d'immanence le meilleur, hein, ce qui signifie qu'il y a des plans d'immanence plus ou moins bons. Toute philosophie trace un plan d'immanence, mais il y a des plans d'immanence qui, tombent le moins, c'est-à-dire le plus pur, celui qui ne se donne pas au transcendant, ni ne redonne du transcendant, celui qui inspire le moins d'illusions, de mauvais sentiments et perceptions erronées. Donc, je vais en rester pour l'instant à l'invention de l'idée de cause immanente. C'est comme ça que le terme... Enfin, Deleuze Guattari montre que l'immanence, c'est beaucoup plus profond dans la philosophie de Spinoza. Toute la philosophie de Spinoza en dépend. Mais il y a quand même un moment où le terme d'immanence intervient chez Spinoza, c'est dans l'idée de cause immanente. C'est-à-dire, Dieu est cause immanente, mais non transitive, ni émanative. Ça, j'ajoute, c'est Deleuze qui montre que la cause immanente n'est ni transitive, ni émanative. Donc, Dieu est cause immanente, mais non transitive de toute chose. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que c'est une cause qui produit en soi, et non pas hors d'elle-même, des effets qui ne sont pas extérieurs à elle. C'est ça l'idée de la cause immanente, en quoi elle n'est pas une cause transitive. bon, on en déduit, je vais très vite là, sur Spinoza, il faut voir en détail, enfin je vais y revenir là juste après, mais donc juste pour dire que c'est de cette idée de Dieu comme cause immanente que ce que découle voilà, l'équivalence Dieu égale nature, tout ce qui se produit en Dieu, et Dieu n'est rien d'autre que l'ensemble de ce qui se produit. Voilà, c'est un pur processus de production sans dehors. Alors, on va voir ce que ça implique. Donc, trois composants. C'est pour analyser le concept d'immanent, je propose de le décrire selon trois composantes. La première composante, c'est l'idée d'une nature sans limite. Voilà. Alors là, encore Spinoza, démonstration de Spinoza dans les 14 premières propositions de l'éthique. Toute production et toute distinction de réalité sont toujours internes à ce qui existe en et par soi, la substance, d'où il suit qu'il n'existe dans la nature qu'une substance unique et qu'elle est absolument infinie. Absolument infinie, voulant dire infiniment infinie. Donc Dieu égale nature égale substance, voilà. Et il n'y a rien d'autre en dehors d'elle. Et du coup, en 14 propositions, Spinoza montre qu'on ne peut la penser que comme infiniment infinie. Voilà. Alors, à quoi ça fait écho ? Il est possible de penser positivement l'infiniment infini comme a su le faire Cantor en mathématiques, même s'il s'agit alors de limiter les infinis les uns par les autres et de les ordonner dans une suite infinie. Mais l'exigence d'immanence rend son affirmation nécessaire, comme l'a donc montré Spinoza en métaphysique. Dieu, c'est-à-dire la nature ou la substance, se compose d'une infinité d'attributs infinis. Donc, qu'est-ce qu'on peut en déduire ? On en déduit qu'il s'agit de penser non seulement l'infinité de l'espace et du temps, mais l'infinité de la dimensionnalité elle-même et des espaces-temps infinis qu'elle peut engendrer. Je fais référence à l'ouvrage de... Bon, Marc et Jean-Pierre Minet ne parlent pas de ça, mais ils, quand même, dans leur ouvrage L'Infini, très bel ouvrage, je vous conseille, ils appellent les physiciens à assumer l'omniprésence de l'infini sans vouloir toujours chercher à faire disparaître l'infini de leurs équations, de toutes les équations. Voilà, donc il y a une façon de... Bon, un petit peu comme cette idée de rebond, d'évacuer les singularités, etc. Il y a toujours une façon de... essayer de continuer un discours physique qui se passe des infinis. Mais c'est intrinsèque au discours physique de vouloir se passer des infinis. Mais voilà, d'un point de vue métaphysique, il n'y a pas d'autre choix que d'affirmer l'infiniment infini, justement de ne donner aucune limite à la nature.
Il y a des dimensions.
Ben, disons que l'infinité de la dimensionnalité, dans ce cas-là, la notion de dimension n'a peut-être pas encore de sens. Peut-être qu'elle a du sens quand la dimension devient finie. Mais on va voir ce que j'entends par dimensionnalité. Ça veut dire des degrés de liberté de la variation, donc des degrés infinis. Bon, on va y revenir, mais effectivement, peut-être l'idée même de dimensionnalité, c'est plus là d'un point de vue physique pour montrer ce qu'il faut étendre. Même la dimensionnalité elle-même, alors que bon, souvent on a tendance à se donner comme ça une variété espace-temps, ou alors un certain nombre de dimensions en théorie des cordes. Bon, voilà, la dimension est forcément d'emblée infinie. Alors, deuxième, donc c'est une nature sans limite. Deuxième composante, une genèse radicale sans émergence. Voilà, ça c'est très important, c'est pas dans... Deleuze et Guattari n'en parlent pas comme ça, mais en même temps c'est ce qui se déduit de leur discours. On va y revenir plusieurs fois, cette idée de qu'il n'y a pas d'émergence, hein, que toute la philosophie, toute l'ontologie de Deleuze Guattari est anti-émergentiste, même si certains ont voulu la mettre dans ce cadre-là. L'immanence donc implique la genèse de toute chose, et cette genèse radicale est une anti-genèse. Tout est nécessairement engendré, hein, c'est pour ça que je disais que la nature, rien ne doit être donné, c'est qu'il faut arriver à tout engendrer, et en même temps, rien ne peut l'être à partir de rien. Ça, le paradoxe, hein, ça vient depuis Épicure, lettre à Hérodote, comme le dit souvent Étienne Klein, toute genèse est une généalogie, c'est pas une genèse à partir de rien, c'est pour ça que c'est pas une antigenèse, c'est pour ça que c'est une antigenèse. Donc tout est nécessairement engendré, et en même temps rien ne peut l'être à partir de rien. On va voir comment Deleuze et Guattari vont résoudre cet apparent paradoxe. Bon, qu'est-ce qu'on en déduit ? Que rien ne peut être donné toute éternité, pas même le temps ni l'éternité, hein, ni la pensée, ni la matière, ni l'espace-temps, encore moins le néant. Il faut faire preuve donc d'une radicalité généalogique. La métaphysique pure nous l'impose, et la physique contemporaine le fait de plus en plus aussi. De plus en plus, il y a une radicalité généalogique, une façon de vouloir engendrer l'espace-temps, engendrer la matière, engendrer. Même s'il y a forcément des limites et des conditions initiales qui sont inhérentes au discours scientifique. Donc voilà, rien n'est donné, mais par ailleurs, rien ne peut émerger à partir de rien. tout ce qui est produit, voilà, c'est ça l'idée, c'est pour ça que ça s'oppose à l'idée d'émergence, c'est que tout ce qui est produit représente ainsi nécessairement non pas plus, hein, il ne peut pas y avoir de... Dès que quelque chose émerge, vient en plus, on sort d'un discours d'immanence absolue. Tout ce qui est produit représente nécessairement non pas plus, mais moins que ce qui produit. Hein, la jeunesse est toujours une jeunesse par soustraction. L'idée d'émergence est fondamentalement incompatible avec l'immanence absolue. Penser toute jeunesse comme soustraction, sélection, simplification, donc ça vient de... C'est une idée qui vient de Bergson dans Matière et Mémoire, la première partie de Matière et Mémoire, puisque Deleuze et Guattari disent dans Qu'est-ce que la philosophie, que les seuls qui ont vraiment retrouvé une intuition spinoziste, c'est Bergson, et bizarrement, il ne cite que la première partie de Matière et Mémoire. Pas tout Bergson, mais juste la première partie de Matière et Mémoire. Et ça vient sans doute de cette idée que dans Matière et Mémoire, justement, la conscience... Bon, là, je fais une interprétation volontairement un peu matérialiste, un peu hétérodoxe de Bergson, hein, comme le fait Deleuze. C'est-à-dire que c'est vraiment la conscience elle-même qui est engendrée dans Matière et Mémoire, au lieu qu'elle soit donnée. Et elle est engendrée comment ? Comme une simple soustraction. C'est-à-dire la perception, les images, l'horizon qu'elle définit, la conscience, c'est toujours moins que l'ensemble des images qui existent en soi. C'est moins parce qu'en fait, ça dépend de notre puissance d'agir, ça dépend du corps lui-même qui va ne retenir de toutes les images qui l'environnent seulement celles qui peuvent intéresser son action, sa puissance d'agir. Donc on ne va pas voir les neutrinos qui nous traversent, tout ce qui compose, tous les champs qui composent, hein, on va juste voir des objets solides dans la mesure où on peut les manipuler. Voilà, ce sont ça les images que l'on va sélectionner sur un fond qui est beaucoup plus vaste. Hein, c'est contre l'idée que la conscience vient en surplus et opère des synthèses sur un donné un peu chaotique. Au contraire, la conscience n'est qu'une soustraction, quoi. Elle se soustrait au plan d'immanence, enfin, à l'ensemble des images existant en soi, du fait de notre puissance d'agir. Bon, et inversement, il ne faut pas empêcher non plus, cette soustraction n'empêche pas l'idée d'une différenciation radicale, c'est-à-dire de la nouveauté. Ça ne veut pas dire que tout est déjà toujours déjà donné, hein. Mais simplement, différenciation radicale, c'est toujours par soustraction, c'est toujours moins. Alors bon, là, je ne veux pas développer, mais c'est justement tout l'enjeu du concept de virtuel chez Deleuze. C'est résolu par cette opposition, ce couple virtuel marchant toujours avec actuel, c'est un couple, et puis surtout la double définition du virtuel, c'est-à-dire c'est un réservoir chaotique, ça on va l'expliquer avec la notion de chaos, la notion de variation pure, et c'est un réservoir immémorial aussi, c'est-à-dire il y a deux sens de virtuel, et il y a une sorte de toujours déjà là qui permet la différenciation, parce que si rien ne perdurait, rien ne pourrait jamais se différencier de rien. S'il y a de la différence par rapport à ce qui est là, c'est qu'il y a du déjà là qui perdure. Bon, voilà. Mais je ne rentre pas dans le détail. C'est un peu plus développé dans mon livre, mais c'est pas l'enjeu. C'est des points philosophiques trop, à la limite trop techniques et qui ne peuvent pas vous intéresser. Voilà. Bon. Alors troisième élément, troisième composante. On a vu une nature sans limite, une genèse radicale sans émergence, une coexistence globale sans unification. Ça aussi, c'est un point très important. C'est que le problème de l'immanence absolue ne se confond pas avec celui du monisme, c'est-à-dire l'idée qu'il n'existe qu'un seul type de réalité, que tout est esprit, matière, etc. Ça ne revient pas à dire ça, hein. C'est pour ça que dire que c'est simplement un matérialisme, on peut très bien dire, Deleuze Guattari, c'est une ontologie matérialiste, mais ça ne résout pas vraiment le problème, puisqu'on va dire simplement, ils vont dire qu'il n'y a que de la matière qui existe, tout est matière, bon. C'est pas l'enjeu. Et même dans la philosophie apparemment moniste, qu'on dit comme étant Spinoza, puisqu'il n'existe qu'une seule substance, qui est composé d'une infinité d'attributs, Spinoza. Ce qui est important, c'est pas l'affirmation de l'unité de la substance, puisque justement les attributs la différencient radicalement, de façon réelle, la substance. Ce qui est important, c'est l'unicité. Ce n'est pas la même chose. Il n'y a qu'une substance, mais ça ne veut pas dire qu'elle est unifiée, ni unifiable. Et c'est pareil pour la question de l'immanence absolue. Le problème de l'immanence absolue ne peut être, c'est pour ça qu'il ne se, ça ne se confond pas avec un concept. Ça ne peut être que dissous et non résolu par un concept. Le plan d'immanence n'est pas un concept, ni le concept de tous les concepts. Qu'est-ce que la philosophie, page 31, puisqu'un concept ne se définit que par d'autres, fût-ce même celui de réalité, de nature, réalité, opposée à possibilité, nature qu'on peut toujours opposer à culture, etc., même si précisément il y a l'idée d'une nature, c'est des distinctions qui fondent chez Deleuze Guattari, et même, bon voilà, l'idée d'immanence, encore faut-il comprendre les composantes qui composent ce concept, mais on voit bien que c'est, voilà, c'est une exigence, un impératif, mais il ne suffit pas de poser, il suffit pas de nommer la chose, si vous l'avez nommée, c'est que vous l'avez perdue, voilà. Vous en avez donné une unité et vous l'avez perdue. Donc il y a ça implique donc de penser une pure multiplicité, non réductible à une unité supérieure. Ça aussi, c'est un point très important. C'est ce que l'immanence s'auto-appartient. Je fais référence à la première citation donnée de Deleuze et Guattari. L'immanence s'auto-appartient et n'est jamais à quelque chose. C'est jamais un datif. C'est jamais. Puisque ce quelque chose auquel l'immanence serait donnée, forcément, réintroduit la transcendance et puis réintroduit surtout une sorte de point de vue totalisant, donc unifiant sur elle. Voilà, ça peut être la conscience, hein, toutes les philosophies de la conscience qui vont dire que c'est là qu'il y a une unité l'immanence est à la conscience. On va penser à une immanence, mais une immanence qui appartient à la conscience, alors que non, la conscience, hein, on l'a vu avec Bergson, n'est qu'une sélection au sein d'un plan d'immanence plus vaste qu'elle. Ou alors, bon, une dimension supplémentaire telle qu'un temps de succession, là je fais référence, peut-être on verra, Aurélien va développer ça, mais avec des multivers qui seraient tous enfilés dans un temps qui les surplomberait tous et qui serait une espèce de succession éternelle toujours déjà là. C'est une espèce d'unité, quand on se donne le temps, on se donne une unité qui va unifier tout le reste. Hein. Ou alors l'espace, c'est le même problème. On donne un espace ou un bloc d'espace-temps et on va dire, voilà, c'est ça l'unité de la chose et tout coexiste à l'intérieur de ça. Donc il n'y a aucun point de vue totalisant ni unifiant sur l'immanence, sinon on perd l'immanence. Voilà, alors...
Juste une question en plus, tu peux motiver un peu ces thèses que tu présentes de façon dans l'esprit axiomatique, c'est qu'est-ce qui peut nous motiver à souscrire à ça? Parce qu'au fond, on peut avoir envie d'être moniste, d'avoir une dimension supplémentaire.
Ben, non, c'est le... C'est,
quoi, un... c'est quoi la motivation?
Non, la motivation, c'est que c'est impliqué dans le concept même d'immanence, c'est juste une définition de... Enfin, sachant que c'est pas un concept, mais c'est une définition de ce qu'est l'impératif d'immanence, absolu.
Si tu décides de le définir comme ça, mais pourquoi tu voudrais le faire?
Ben, tout simplement parce que on pose que c'est inhérent au discours philosophique. Un discours philosophique qui s'assume ne peut qu'affirmer une immanence absolue. Ou s'il ne l'affirme pas, c'est justement il l'affirme de façon sous-jacente en laissant subsister des illusions de transcendance, voilà, etc. C'est une sorte de discours philosophique qui réfléchit sur lui-même, qui prend conscience de lui-même et qui montre qu'il est inhérent à son discours d'affirmer une immanence absolue.
L'idée, c'est que c'est plus rationnel de faire ça, par exemple ? Que c'est plus cohérent, que c'est plus économique. Ça a l'air économique d'avoir un plan d'immanence qui semble... Je vais s'épargner la transcendance, mais je vois quelle est la motivation finalement. Tu peux pas dire comme ça que c'est que l'essence de la philosophie, si elle se réfléchit, dégorge ce truc-là. Il y a des philosophies qui sont pas, qui veulent pas du plan d'immanence.
Oui, ben justement, c'est une forme, ça peut avoir une sélection au sein des philosophies.
Donc, pour toi, qu'est-ce qui fait que tu as envie de tenir à cette axiomatique?
Non, mais c'est une forme de... C'est pas un choix personnel. C'est inhérent quand on développe le concept d'immanence absolue, on en déduit tout ça. Après...
Pourquoi vouloir développer ce concept qui va pas trop... Non, mais est-ce que c'est moins arbitraire qu'autre chose? C'est vrai qu'on a toujours l'impression que la transcendance, déjà on ne sait pas comment l'appeler, conscience, Dieu, est un peu arbitraire. Donc, là, ce serait quelque chose.
La transcendance est toujours compréhensible du point de vue de l'immanence. C'est-à-dire que tu vas dire, ah oui, ben, suppose un Dieu, tu vas le limiter, tu vas te donner une unité supérieure. Alors que du point de vue d'un discours de transcendance, il n'y a pas de façon d'encadrer le discours de l'immanence, à moins de dire, ah oui, mais l'immanence, d'accord, ok, mais elle est toujours donnée à autre chose. Mais voilà, ça c'est une illusion que démonte le point de vue de l'immanence absolue. Pour moi, il y a un point de vue qui englobe l'autre, et ce qui est pas l'inverse n'est pas vrai. D'accord. Donc c'est plus englobant, plus... Voilà. De même que Einstein englobe Newton, mais pas l'inverse. Bon. Alors,
est-ce que par ailleurs tu peux nous donner un exemple d'une jeunesse par soustraction, biologie?
Ben on va y venir.
Vous allez y venir. D'accord.
Ah oui, on va y venir, puisque précisément tout l'enjeu de la, les trois impératifs, hein, c'est vrai que je les ai pas donnés, je vous ai d'emblée, parce que là je vais déduire les deux autres, là on va les voir. Les deux autres vont en découler. Là on était dans le premier impératif, et les deux autres vont découler des problèmes qui sont laissés en suspens par cette notion d'immanence. Donc, si le plan d'immanence n'est l'objet d'aucune unification ni totalisation possible, sous peine de perdre l'immanence, hein, je rappelle le point que je viens de développer, point 1.3, quel contenu autre que la multiplicité, on l'a vu, hein, multiplicité irréductible, ou l'infiniment infini lui assigner. Bon, voilà, est-ce qu'on en est à simplement tenir des discours sur l'infiniment infini, la multiplicité, sans rien pouvoir dire d'autre? Ou, voilà, quel contenu lui donner, sans en même temps donner une unification, une totalisation, donner une unité, parce que là, à ce moment-là, on perd l'immanence. C'est le premier problème. Le second problème, que doit être ce contenu, justement, pour produire toute la réalité expérimentée et concevable, sans que ce qui produit n'apparaisse donné, hein, on a vu, il ne peut pas y avoir de... Rien ne peut être donné, ni que ce qui est produit ne paraisse en émerger. Hein, donc là, voilà, souci de toujours penser la genèse comme soustraction. Sinon, on perd l'immanence, on s'ajoute quelque chose intervient de façon extérieure à ce qui est déjà là, et voilà, on perd l'immanence. Enfin, troisième problème, que doit être ce processus de production pour, sans jamais épuiser l'infiniment infini, hein, sous peine de perdre l'immanence, et si vous donnez, si vous commencez à limiter la nature, etc., ce qui va être le cas, mais je veux dire, en disant que cette limitation épuise l'infiniment infini, le fait disparaître, etc., vous allez perdre l'immanence, vous allez vous réintroduire des limites, et donc, en même temps, ce processus de prédiction qui n'épuise pas l'infiniment infini, comment en faire naître ce qui apparaîtra par rapport à lui comme limité ou fini, tout en pouvant être en soi infini, c'est-à-dire que ce sera limité ou fini du point de vue de l'infiniment infini, mais ça peut être en tant que tel un espace-temps infini, c'est pas le problème, et un espace-temps infini sera toujours plus limité que l'infiniment infini, forcément. Alors, voilà, pour y répondre à ces trois problèmes, Deleuze et Guattari sont conduits à créer d'une part le concept de variation pure, ça c'est ce qu'on va analyser dans un deuxième temps, c'est le second impératif, deuxième impératif, et d'autre part l'idée de ralentissement ou de stratification de cette variation. Ça c'est le troisième impératif, c'est comme ça qu'on va comprendre qu'il n'y a jamais de... tous les processus de genèse ne sont jamais des processus d'émergence. Voilà, c'est cette idée de stratification de variation. C'est un concept qui date de 1000 plateaux, alors que l'idée de ralentissement est développée plutôt dans Qu'est-ce que la philosophie? Ça, on le verra en tant que troisième impératif. Mais je laisse la parole à Aurélien, qui va nous dire un peu quelques mots sur cette notion, à la limite, la notion complémentaire, c'est-à-dire de plan de référence. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire, plan de référence en philosophie, qui peut introduire le concept de multivers, je pense.
Merci Jérôme. Donc, moi je suis tout à fait d'accord d'ailleurs effectivement avec ce que tu as dit, heureusement, et avec la remarque d'Élie, parce que clairement d'autres axiomatiques sont possibles, hein, c'est tout à fait incontestable. À mon avis, ce qui est intéressant, c'est que Deleuze le dit clairement, l'axiomatique, elle est construite pour répondre à un problème. Donc il faut d'abord poser le problème. Et je crois que le problème qu'il a posé, enfin moi c'est comme ça que j'identifie, c'est non pas comme tu le proposais de développer une pensée rationnelle avec le minimum d'hypothèses, mais une pensée irrationnelle mais logique. C'est-à-dire quelle est l'axiomatique minimale qui répond à ces deux contraintes, logique au sens interne et irrationnel au sens externe, c'est-à-dire effectivement ne pas s'inscrire dans la construction logocentrique. Quand on était à Lyon, la différence méthodologique majeure qui est émergée en deux jours entre les philosophes et les physiciens, c'est que les philosophes parlent assis et les physiciens parlent debout. Vous voyez que c'est respecté aujourd'hui, puisque donc, effectivement Jérôme est debout. Tu m'as quand même étonné que c'était de progrès en métaphysique. Il faudra qu'on discute de ça après, là, parce que c'est très moderne, ça, comme idée. Bon. Alors, pour moi, et donc dans la continuité de ce qui vient d'être exposé, ce qui me semble intéressant chez Deleuze, ce qui me semble fondamental, en fait, c'est non seulement qu'il se place dans un rapport constant au chaos, mais aussi que ce rapport n'est pas purement conflictuel. Voilà. C'est ça qui me paraît vraiment intéressant pour ce qui est des interférences avec la pensée scientifique.
Bon, il me semble... Juste un petit pardon, pour dire que le chaos...
On va y revenir.
Peut-être que tu vas en dire quelques mots, mais c'est précisément quelque chose que je vais analyser en détail. Voilà,
tu vas y revenir très largement.
Parce que chaos, justement, c'est comme tous les concepts deleuziens, il ne faut pas les rabattre sur des concepts tels qu'ils sont définis par la physique. Voilà.
Non, mais tu as tout à fait raison. Donc je crois qu'on vit clairement dans un primat de l'ordre. Moi, je suis personnellement convaincu qu'il faudrait rebaptiser notre cosmologie, non pas en cosmogonie, en cosmographie, voire en cosmonomie, qui serait sans doute le pire, mais plutôt en chaologie. Voilà. C'est-à-dire d'assumer véritablement ce qui est l'enjeu, finalement, de la démarche scientifique, c'est-à-dire ce rapport au désordre. Et je crois qu'il est un peu temps, peut-être, de déconstruire ce mythe de l'ordre, y compris là où on s'attendrait le moins à ressentir la nécessité de sa déconstruction, c'est-à-dire au sein même de la science de la nature. Alors, certains, vous le savez, voient dans l'histoire de la philosophie un primat de la métaphysique, du logos, de l'ontologie. Moi, je crois quand même que la colonne vertébrale de cette pensée occidentale, c'est une sorte de passion de l'ordre. D'ailleurs, le mot cosmos est très ambigu de ce point de vue-là, parce que vous savez qu'en gros, en grec, cosmos, c'est à la fois cette figure très, très magistrale, de l'ordre universel, mais c'est aussi un mot qui désigne des breloques, hein, des bijoux, en un sens très cosmétique. Cosmétique et cosmologie ont la même origine. Hein, donc c'est cette ambiguïté doit aussi parfois être assumée. Alors, ce qui est intéressant, c'est que de toutes les formes de pensée, je pense que la science, et singulièrement la physique, c'est véritablement celle dont on attend un rapport privilégié à l'ordre. Et c'est cette idée que je me propose un petit peu de réfuter, en fait, à titre de provocation, mais aussi d'utilisation de ces idées deleuziennes. J'en suis pas du tout certain, voilà. Qu'on pense un instant à l'univers contemporain, à celui qui est scruté par nos télescopes et nos instruments modernes. Qu'est-ce qu'on y voit ? On y voit des étoiles qui côtoient des planètes, qui côtoient des galaxies actives, qui, comme vous le savez, sont elles-mêmes réparties en multiples sous-genres, des galaxies Seyfert, des Starburst, des Lacertides, des Blazars, des OVV, des radiogalaxies. Mais on a aussi dans cette zoologie cosmique des pulsars, des trous noirs, des nébuleuses planétaires, de vastes étendues de gaz chauds, des chocs intenses, souvent relativistes, des processus magnéto-hydrodynamiques, au comportement parfois chaotique, au sens physique du terme, des étoiles à neutrons, des naines blanches. Est-ce que vous pensez vraiment que ce nouvel univers, celui de l'astrophysique du XXIe siècle, est beaucoup plus proche de l'ordre, de cette espèce d'ordre du plérôme, que ne l'était le firmament des anciens ? Je n'en suis pas tout à fait certain. Alors, on me dira que, sans doute, il faut mieux regarder, dans cette fameuse idée que je me propose de réfuter, du réductionnisme scientifique, du côté de l'infiniment petit. Là encore, ça ne va pas autant de soi qu'on le croit souvent. Si vous faites le compte, la classification périodique de Mendeleïev compte aujourd'hui, je dis aujourd'hui parce qu'on en découvre, on en synthétise de nouveau presque chaque année, 118 éléments. Et si vous faites le compte du nombre de degrés de liberté du fameux modèle standard de la physique des particules élémentaires, j'en ai dénombré 126. Ordre, réduction, je n'en suis pas si sûr. Ni les télescopes, ni les microscopes ne me semblent avoir subsumé la diversité sous un maître concept quel qu'il soit. Alors vous m'objecterez peut-être que plutôt que de regarder du côté des objets, il faudrait regarder du côté des lois et de la fameuse unification qui est à l'œuvre en physique. Mais là encore, c'est pas si simple. Avez-vous déjà, les physiciens, oui sans doute, mais les autres, regardé un Lagrangien de chromodynamique quantique ? Eh bien, je vous assure qu'on est très loin, en tous les cas, d'un ordre qu'on pourrait considérer comme naturel, ou alors, je ne sais pas, suivant quelle mesure. Il me semble qu'il est au contraire d'une magnifique inévidence, une sorte de mix hétérogène. Et pire encore, regardons un instant la gravitation quantique, puisque ces séances ont été largement placées sous le thème de l'espace-temps et de sa genèse. Et restons-en pour le moment, parce que j'espère qu'on le réfutera et qu'on le déconstruira ensuite, mais restons-en provisoirement à une vision purement popérienne de la science. Voilà. Donc les théories sont mortelles, elles sont falsifiables, elles sont réfutables. Je crois donc que d'un point de vue ontologique, c'est beaucoup plus raisonnable de considérer, c'est même presque indispensable en fait, de considérer que toutes les théories non réfutées à un instant donné sont correctes. Non pas comme on le dit usuellement, que l'une d'entre elles est correcte et qu'il faut élaguer à l'aide d'expérience. Bien sûr, c'est comme ça qu'on procède. Évidemment, on élague à l'aide d'expérience. Ça, c'est incontestable. C'est la méthode. Mais puisque précisément toutes les théories, y compris la meilleure du lot des théories dont on dispose à l'heure actuelle, seront nécessairement réfutées, il est ontologiquement beaucoup plus raisonnable de considérer que toutes les théories correctes à un instant T, c'est-à-dire en adéquation avec les données, sont simultanément justes. De ce point de vue-là, pensez un instant à ce qu'est l'espace-temps. L'espace-temps quantique en particulier. Théorie des cordes, gravitation quantique à boucle, géométrie non commutative, je sais que ça a été évoqué dans les séances précédentes. Je pense aussi à la théorie des topos d'Hicham. En deux mots, je pense que Chris Hicham, c'est celui qui a poussé le plus loin l'idée d'une incompatibilité structurelle, vraiment structurelle, entre mécanique quantique et relativité générale, au point de devoir presque refonder le langage mathématique. Il faudrait dire topoi, parce que c'est aussi au pluriel qu'il faut penser ces classes. Pensez aux ensembles causaux, jusqu'à la belle hypothèse de Gerlinde, qui est très discutée aujourd'hui par les physiciens, où finalement la gravitation ne serait qu'un effet d'entropie. C'est-à-dire que quand on applique le principe holographique au degré de liberté interne de l'espace, autrement dit aux objets hein, présents dans l'espace, la gravité n'est plus une force fondamentale, elle n'est qu'un effet entropique avec un E, hein, c'est-à-dire un effet de désordre, des constituants de l'espace-temps. Bon, aujourd'hui, qu'est-ce que l'espace-temps ? C'est tout ça. Toutes ces théories sont compatibles aujourd'hui avec nos observations. Ordre, me direz-vous, au niveau des lois, une fois de plus, je n'en suis pas tout à fait sûr. Alors pourtant, et clairement, il y a une spécificité du rapport scientifique au chaos. Voilà, il ne s'agit pas de dire qu'on peut dire et proposer n'importe quoi, c'est évidemment pas le cas. Penser, écrivait Deleuze et Guattari, et j'aime beaucoup cette phrase, n'est ni un fil tendu entre un sujet et un objet, ni une révolution de l'un autour de l'autre, penser se fait dans le rapport du territoire et de la terre. Donc la question qui se pose à nous, c'est de savoir ce que sont les territoires épistémiques. Alors, ça me semble d'autant plus intéressant que Jérôme est l'un des rares, avec quelques autres, dont Véronique Bergen, qui est une philosophe belge à qui j'emprunterai quelques idées, à proposer et à s'intéresser au concept d'ontologie. Enfin, c'est pas vraiment un concept, mais à la dimension ontologique de la philosophie de Deleuze. Donc pour le dire en quelques mots simples pour les physiciens, le tournant transcendantal qui a été frayé par Kant, elle a eu quand même essentiellement pour effet diriger la critique, les critiques qui sont kantiennes, en rempart contre l'ontologie. C'est-à-dire que là où la critique a joué chez Kant le rôle d'un cran d'arrêt qui interdisait toute intuition de l'être, là où elle sépare le champ phénoménal du champ nouménal, ce que Deleuze, me semble-t-il, s'emploie à faire, c'est à la construction d'une coalescence entre critique et ontologie, mais dans le cadre, comme l'a montré Jérôme, d'un strict immanentisme. Voilà. Et c'est ça qui fait sauter, en quelque sorte, le dualisme kantien du phénomène et du noumène. Alors, caricaturalement, c'est Nietzsche qui est le levier qui permet de tordre la critique en direction d'une généalogie, c'est-à-dire d'un souci génétique, sans instance judiciaire, c'est très important pour ce qui nous intéresse, et c'est Bergson qui autorise Deleuze à produire une sorte d'articulation du transcendantal et de l'empirique, en les termes du virtuel et de l'actuel. Ce qui me semble important pour penser la science, c'est que le mot d'ordre, c'est d'instaurer en quelque sorte une logique du « et » plutôt que du « est ». Autrement dit, aux apôtres de l'ontologie de l'équivocité, on va opposer la fluidité du « est ». Voilà. La fluidité du « est », qu'est-ce que ça veut dire? C'est une sorte de convocation d'une pensée rhizome, pour reprendre un concept très connoté, qui essaime par alliance, par devenir, par nuage, et je dis ça pour anticiper sur les deux objections les plus communément faites, à mon sens et à ma connaissance, à la pensée deleuzienne. D'une part, celle de Zurabichvili, qui voit une sorte de confusion ontologique, ce qui est sans doute une erreur dans la mesure où c'est en quelque sorte laver Deleuze de l'hétérogénéité qu'il a lui-même construite, et celle de Badiou, qui refuse finalement la viabilité d'un fondement relationnel. Voilà. Et ça, c'est le point central pour moi. En tous les cas, pour penser la physique, c'est précisément ce caractère central de la relation. Ça, on va y revenir dans la dernière partie. Je crois que pour moi, c'est la thèse centrale de ce que peut apporter la pensée de Deleuze-Guattarienne à la physique. C'est une pensée précisément où l'ontologie se déploie plus dans la relation, c'est-à-dire dans le « et » que dans l'être, c'est-à-dire dans le « est ». Alors, pour revenir à ce que j'étais censé faire, c'est-à-dire vous dire quelques mots du plan d'immanence et du plan de référence, caricaturellement, on peut dire que chez Deleuze et Guattari, il y a trois instances, enfin trois modes de relations réelles, la philosophie, l'art et la science. Bon, la première pense par variation, la seconde par variété, et la troisième par variable. C'est pas exactement ce par quoi elle pense, c'est plutôt ce qu'elle rapporte du chaos, leur manière finalement d'identifier le chaos. Elle se déploie suivant un plan d'immanence pour la philosophie, ce qu'a présenté Jérôme, un plan de composition pour l'art et un plan de référence pour la science. On va comprendre comment ce plan de référence s'articule avec le plan d'immanence. Et elle pense respectivement par concept, bien sûr pour la philosophie, par sensation pour l'art et par connaissance pour la science de la nature. Alors la philosophie garde des vitesses infinies. C'est un point sur lequel Jérôme va revenir, donc je ne fais qu'esquisser. Elle donne consistance au virtuel. Au contraire, et ça c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, la science opère une ralentie. Elle cherche une sorte de référence capable d'actualiser le virtuel. Alors soyons bien clairs pour anticiper les objections, la ralentie dont il est question n'est pas du tout au sens cinématique du terme. Hein. Voilà, ne pensez pas en termes de vitesse sur un plan newtonien, c'est pas du tout ça dont il est question. C'est une ralentie dans le sens de l'affrontement du chaos qui est lui-même défini, comme va le montrer Jérôme, par ses vitesses infinies. Mais je sais que tu vas y venir, donc je suis prêt. Autrement dit, ce qu'il faut, c'est dresser un plan de consistance dans l'espace des théories. C'est ça l'enjeu de la physique. Alors, se demander non pas, par exemple, ce qu'est l'espace-temps, mais comment trouver des fonctifs. Les fonctifs, c'est un mot qui est emprunté à la linguistique, hein, ce sont les arguments qu'une fonction met en rapport. Franchement, je vois personnellement aucune raison de supposer qu'il existe une réponse unique à la question « qu'est-ce que l'espace-temps ?», qui est la question qui nous intéresse, finalement, enfin, dans le cadre de ce groupe de travail. Je ne vois même pas de raison que cette question soit intrinsèquement pertinente. En revanche, je pense effectivement que la physique actuelle, au sens d'une des chaoïdes, une des filles de chaos, disons, est exactement en train de tracer un plan de référence dans le chaos pur pour opérer cette actualisation du virtuel. Alors évidemment, toutes les actualisations ne sont pas possibles, précisément. C'est pour ça que la physique ne dit pas n'importe quoi, on en conviendra tous, loin s'en faut. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il faut à la fois choisir le plan et le mode de ralenti. Par exemple, ce que j'appelle plan, c'est considéré que l'espace-temps est signifiant, ce qui ne va pas de soi. Il y a des mondes physiques dans lesquels l'espace-temps n'est pas signifiant. Et, par exemple, choisir la vision géométrique, ce qui, là aussi, ne va pas de soi. Puisque ces séances ont été essentiellement placées sous l'égide de la relativité générale, je me permets de donner ce petit exemple provocateur, le principe d'équivalence, on en a beaucoup parlé presque à chaque fois. Rappelez-vous quand même, je crois que personne ne l'a dit jusqu'à maintenant, que la mécanique quantique la plus simple, l'équation de Schrödinger, viole l'universalité de la chute libre. Elle ne viole pas le principe d'équivalence au sens einsteinien du terme, mais elle viole l'universalité de la chute libre. Quand vous écrivez moins h bar carré sur 2m, laplacien psi plus m phi psi égale 0, m ne se simplifie pas. Ça veut dire que des corps de masse différentes ne tombent pas de la même façon dans le champ gravitationnel. Et effectivement, ça a été mesuré expérimentalement. On peut mesurer la masse du neutron en laissant tomber des neutrons dans le champ de gravité. Voilà. On mesure la masse par un phénomène de chute libre. Vous voyez. Alors ça ne prouve pas que la relativité générale est fausse, évidemment, sinon on le saurait. Mais ça prouve quand même que l'interprétation géométrique est sujette à caution. Et qu'est-ce que ça veut dire qu'une interprétation géométrique, quand précisément des corps de masse différentes ne tombent pas de la même façon? Alors, ce qui me semble crucial, c'est la pensée de la contingence. La contingence, bon, c'est quelque chose qui revient de façon récurrente chez Deleuze. Je voudrais donner un exemple de l'importance de ce concept pour la physique. La physique des particules, probablement une des branches de la physique qui s'est le plus développée au XXe siècle, on nous dit toujours que c'est une pensée de l'unification. Il faut trouver des symétries, c'est vrai. Les symétries jouent un rôle considérable en physique des particules. Donc pour les philosophes, en deux mots, l'idée c'est la suivante. On identifie une symétrie globale du système, que l'on suppose exacte, et on essaye de la localiser. Bon, la localisation de cette symétrie globale est un processus illicite. Voilà. On peut rajouter une phase globale à la fonction d'onde de l'univers, on ne peut pas localement changer la phase de la fonction d'onde. On décrit plus le même monde. Et pourtant, on le fait. Et c'est la raison pour laquelle il faut introduire des médiateurs des interactions, ce qu'on appelle les bosons de jauge, d'un point de vue imagé, mais je pense relativement correct. Ce sont en quelque sorte les objets physiques qui viennent transporter les conventions aléatoires qui sont faites localement dans l'application locale d'une théorie qui n'a de qui n'a de légitimité que globale. Bon, ça fonctionne extraordinairement bien. Vous savez qu'on arrive aujourd'hui à rendre compte de l'ensemble des interactions en termes de ces théories dites de jauge. Sauf que le monde dans lequel on habite n'est pas unifié. Voilà, vous savez tous, même les moins spécialistes, qu'on a unifié par exemple l'interaction électromagnétique avec l'interaction nucléaire faible. Toujours est-il qu'heureusement, au quotidien, quand il y a une répulsion électromagnétique entre les nuages électroniques de ma main et ceux de la table, c'est pas une interaction nucléaire, c'est bien une interaction électromagnétique. Alors comment ça peut être unifié et demeurer différent? Parce qu'il y a un second concept fondamental qui est celui de brisure spontanée de symétrie. Alors là encore, pour le comprendre de façon imagée, une brisure spontanée de symétrie, c'est une situation où les solutions n'ont plus la symétrie des équations. Vous prenez un stylo, vous le posez sur sa pointe, c'est parfaitement symétrique par rotation autour de l'axe, vous le lâchez, il tombe. Il a choisi une direction particulière, il n'est plus symétrique. Vous allez me dire, oui, mais c'est parce qu'il était un peu penché. Mais c'est pas vrai. Même s'il n'est pas penché, il y a des fluctuations quantiques qui vont le faire tomber s'il est instable. Ou comme vous prenez un verre d'eau, les dipôles des molécules d'eau sont dans toutes les directions, il n'y a aucune direction privilégiée, la température chute, ça se fige en glace, et là, tous les dipôles s'alignent dans une seule direction. Aléatoire, un autre verre à côté va s'aligner dans une autre direction. Donc on a brisé spontanément la symétrie. C'est comme ça qu'on réhabilite en quelque sorte la diversité du monde, en dépit de l'unification conceptuelle. Mais cette brisure spontanée de symétrie est intrinsèquement un processus aléatoire. Et donc vous voyez que ça nous conduit, et ce que je dis là est banal, hein, c'est pas une idée, pas l'idée du tout révolutionnaire, c'est des choses très bien comprises, mais ça nous conduit, il faut en prendre conscience, à réinterpréter les lois, c'est-à-dire le cœur de ce que la physique considérait comme nécessaire, comme des paramètres environnementaux, c'est-à-dire des données strictement contingentes. Donc ça c'est quand même une bonne raison pour faire face à cette pensée de la contingence. Alors, le concept de rhizome chez Deleuze, c'est une structure qui est intéressante parce qu'elle n'a pas de point d'origine et elle n'a pas de principe premier. Il n'y a pas d'avancée significative qui ne se fasse sans bifurcation, sans rencontre imprévisible, sans réévaluation de l'ensemble. Et le rhizome, c'est une espèce d'antiméthode de pensée. Et ce que je nous propose, c'est de voir si la physique peut se penser en rhizome. Alors ça ne peut se faire, à mon avis, qu'avec l'aide du concept de multiplicité. Je vais bientôt te repasser la parole, Jérôme. La multiplicité, je cite, différence et répétition, ne doit pas désigner une combinaison de multiples et d'un, mais au contraire, une organisation propre aux multiples en tant que telle, qui n'a nullement besoin de l'unité pour former un système. C'est très important de poser comme ça, de faire face à cette possibilité, cette hypothèse, hein, c'est une axiomatique évidemment réfutable, mais c'est une hypothèse de prima de la multi, du multiple. Donc là encore, on est dans la logique du « et je crois qu'on n'a pas encore véritablement commencé à penser la physique sous ce régime de multiplicité. Voilà. Et donc le moment crucial dans la philosophie de Deleuze, c'est dans « Mille plateaux », au moment où s'introduit cette idée de molécularisation, je pense, quand les entités n'acquièrent plus de détermination que groupées selon des rapports de vitesse et de lenteur. Je crois que c'est dans le devenir animal, toi diras si je me trompe. Donc c'est très important en physique parce que finalement je ne vois pas le sens qu'aurait un proton sans neutron. Vous voyez ? Si on pense du point de vue des symétries de la physique des particules élémentaires, là encore je caricature, mais c'est pas complètement faux, la théorie des interactions fortes, vous allez en partie la construire comme une théorie invariante par rotation dans un espace abstrait dont les vecteurs de base sont le proton et le neutron, ou pour l'interaction faible, l'électron et le neutrino. Donc quel est le sens d'un proton sans neutron ? Il y a clairement, factuellement, mathématiquement, un primat du multiple, aujourd'hui, dans notre compréhension et dans nos entités considérées, provisoirement évidemment, mais comme fondamentales, dans notre description, me semble-t-il, du monde subatomique. Voilà. Donc, la physique, bon, peut évidemment demeurer un constructivisme au sens intellectuel, évidemment, pas au sens d'un rapport univoque avec le réel, enfin, à mon avis, en tout cas, certainement pas, mais pas au sens matériel, pas au sens d'une théorisation, d'une thésaurisation à partir de l'un ou du fondamental. Le fondamental peut être multiple, voilà. Alors, l'avancée ne va pas forcément de pair avec l'unité, ça c'est un autre point qui me semble fondamental de penser pour la science à partir de Deleuze. Je voudrais juste donner un exemple, pour que ça ne reste pas des concepts exclusivement abstraits et décorrélés de la pratique scientifique. À l'époque de Kepler, l'enjeu central de la pensée astronomique, c'était de trouver la loi qui permettra de dériver la valeur des rayons des orbites planétaires. C'était un enjeu absolument central. La science a avancé, si on veut, au sens moderne du terme, de Jérôme. Aujourd'hui, plus personne n'espère le faire. Il est évident pour tout astrophysicien que la valeur des rayons des orbites planétaires est absolument contingente. Elle est comme ça suite aux conditions initiales, qui sont elles-mêmes contingentes, aléatoires, mais elle ne peut absolument pas en droit se dériver à partir des principes premiers. Vous voyez que cette diversité possible des rayons des orbites planétaires autour de chaque étoile est aujourd'hui assumée comme une évidence scientifique. Alors que la nécessité de trouver un principe d'unification de ces grandeurs à l'époque de Kepler était considérée comme nécessaire. Donc le progrès scientifique ne va pas toujours dans le sens d'une unité, au moins des résultats. Et des lois non plus, à mon avis, mais on y reviendra plus tard. La multiplicité, bon, évidemment, l'exemple canonique, archétypal, c'est la mécanique quantique, onde corpuscule, bon, j'y reviens pas, tout le monde le sait, mais même au sein de la relativité, puisque c'était plus le thème central de ces rencontres, pensez un instant à E égale MC2, voilà, la formule la plus connue et la moins comprise du grand public de la physique. Qu'est-ce que ça veut dire ? Bah, c'est quand même un lien entre une propriété essentielle et une propriété accidentelle, une propriété innée, une propriété acquise, entre une propriété nécessaire et une propriété contingente. Vous voyez, la masse, c'est l'être. Je pèse, donc je suis, dans une version appauvrie du cogito, c'est presque comme ça que le physicien définirait la particule. C'est une propriété intrinsèque des objets, la masse. L'énergie, c'est complètement contingent. Je pousse la particule, je lui confère de l'énergie cinétique. L'égalité entre masse et énergie, c'est vraiment un pont conceptuel majeur qui est érigé entre une propriété essentielle et une propriété accidentelle. Et c'est une dualité qui est, dans l'état actuel des connaissances, indépassable. Alors je voudrais aussi donner un exemple, si j'ai encore quelques minutes, de ralenti, puisque c'est la manière dont Deleuze et Guattari conceptualisent un petit peu la démarche physique. Et je voudrais donner l'exemple du trou d'Einstein, voilà, pour montrer comment la covariance permet à mon sens de sentir ça. Donc j'ai essayé de trouver des exemples en lien avec le thème général de ces séances, hein, donc l'espace-temps. Alors on en a beaucoup parlé dans les séances précédentes. D'abord, Einstein plaide pour la covariance. Pourquoi ? Parce que précisément, c'est une façon de tenir compte de ce que les lois de la physique doivent être les mêmes dans tous les référentiels. Et puis, il revient en arrière. Il revient en arrière pourquoi ? Parce qu'il se rend compte que c'est extraordinairement dangereux, cette idée de covariance. Parce que prenez un champ gravitationnel, disons un champ de tétra de E de X. Et puis, faites un difféomorphisme, donc un changement smooth sur la variété différentielle, sur le manifold. Vous avez maintenant un nouveau champ, E'. Mais on peut toujours trouver un système de coordonnées tel que la fonction E de X, donc le premier champ dans le premier système, soit égal à la fonction E' de Y, c'est-à-dire le nouveau champ modifié par diffomorphisme dans le nouveau système de coordonnées Y. Autrement dit, et ça, tous les physiciens le savent, une théorie qui est génériquement covariante est aussi invariante par diffomorphisme. Mais c'était très grave, ça. L'expérience de pensée d'Einstein, c'est la suivante. Vous prenez une distribution de matière, vous faites un trou au milieu. et vous vous arrangez pour faire un diffeomorphisme du manifold qui modifie uniquement la situation dans le trou, là où il n'y a pas de matière. D'accord ? Donc initialement, au point A, vous aviez un champ, par exemple, plat, et au point B, un champ ondulant. Vous faites un diffeomorphisme qui échange les deux situations. C'est assez embêtant, parce que la distribution de matière n'a pas changé. Mais le champ gravitationnel a changé. À la question « que vaut le champ en A ?», vous n'avez plus la même réponse. Einstein revient en arrière. Et enfin, dernière étape, et c'est là où la relativité générale prend son envol, il comprend que non, il faut bien garder la covariance, et on ne perd pas le déterminisme. Pourquoi ? Parce que, évidemment, ce qui fait sens, c'est justement les classes d'équivalence de diffeomorphisme. C'est-à-dire que la question n'est plus « que vaut le champ gravitationnel au point A et au point B ?» Le point A et le point B n'existent pas. Ce qui fait sens, c'est « que vaut le champ gravitationnel là où deux géodésiques initialement déterminés dans la région du champ de matière vont par exemple se rencontrer. Et là, bien sûr, la réponse est la même avant et après d'avoir effectué la variation par diffeomorphisme. Donc, vous voyez, qu'est-ce qu'on a fait finalement ? On a neutralisé l'action des diffeomorphismes. On a considéré que ce qui faisait sens physiquement, c'était pas une solution, mais c'était une classe d'équivalence. C'est exactement pour moi l'exemple de ce qu'on peut appeler une ralentie. J'ai bientôt fini, vraiment bientôt. La science n'est pas hantée par sa propre unité, écrivait Deleuze. Bon, c'est quand même prémonitoire, moi, je trouve ça. C'est extraordinaire. On nous a expliqué, bon, ben voilà, Jérôme va le développer.
Non, mais la citation que je donne, justement, il y a cette idée.
Bon, toute l'histoire de la physique nous a été quand même présentée comme ça, quoi. On va vers le sens de l'unité conceptuelle. Moi, je trouve que c'est une très, très belle idée et très, très actuelle, finalement. Pourquoi le serait-elle ? Effectivement, pourquoi la science serait hantée par sa propre unité ? Bon. Caricaturalement, à mon sens, l'unité a deux origines, hein, c'est pas très compliqué. Il y a d'une part l'origine religieuse, islamo-judéo-chrétienne, évidente, des religions monothéistes. Et puis il y a, je crois, une origine plus philosophique, très platonicienne, la convergence des essences à l'issue de la dialectique ascendante, le beau égale le bon, égale le vrai, égale le bien. Bon, maintenant regardons la science telle qu'elle se pratique, non pas dans le prisme de ces deux origines, mais du point de vue de la praxis. Bah, manifestement, outre toutes les multiplicités que j'espère vous avoir mentionnées jusqu'à maintenant, y compris dans la physique la plus contemporaine, cette fameuse théorie du tout, ce grand fantasme de certains physiciens, est quand même toujours très clairement hors d'atteinte. Et quand bien même un énorme Lagrangien pourrait être écrit dans quelques années qui décrirait l'ensemble des interactions, la méta-question est évidente. Dans quelle nouvelle méta-diversité faudra-t-il l'immiscer pour en comprendre, non peut-être pas l'émergence, parce que c'est un mot malhabile dans le cadre des groupes de travail de Leuzien, mais au moins la singularité. Vous voyez, de toute façon, on ne s'en sortira pas comme ça. Ça me semble absolument évident. Donc l'immanence, rappelait Jérôme, s'auto-appartient. Elle n'est jamais à quelque chose qui offrirait un point de vue unifiant sur elle. Voilà, c'est ça, je crois, qui est l'idée essentielle. Le point de vue extérieur n'a pas de sens. C'est d'ailleurs en écho au fameux N-1 de Deleuze. Il ne s'agit pas d'ajouter des dimensions. Je ne parle pas de dimensions spatiales. Hein. On n'est pas dans les dimensions supplémentaires de la théorie des cordes, bien sûr. Mais de retrancher dans l'ensemble des possibles. Par exemple, des brisures de symétrie possibles. Et de considérer, pour étudier, ce qu'on peut considérer comme absolument réel avant l'actualisation. Je te redonne la parole.
Un grand merci. Donc un grand merci.
Est-ce qu'on fait une pause maintenant
Une petite séance de questions. Vous êtes à mi-chemin là.
Il manque le plus gros quand même.
Ouais, on est à peu près à mi-chemin, mais disons gros, que, bon, je pense que les interventions sont très bienvenues, mais comme les choses vont peut-être s'éclairer, peut-être, j'espère, dans le discours.
Peut-être après, une fois que moi j'ai fini la version, après, et avant que tu reprends
le
multivers,
comme vous voulez.
Je pense que ça va pas.
Alors, juste, c'est pas une question, long. Mais tenez compte de ma question dans votre deuxième partie. C'est pas mal qu'on comprenne ce que c'est qu'un plan.
Ah oui, non, oui, j'ai oublié de préciser qu'effectivement, on oublie de préciser que plan ne veut pas dire réalité bidimensionnelle.
Voilà, ça, je suppose, mais ça ne me dit pas. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est un plan de composition ? C'est un plan constructif ? C'est quoi ?
Moi, je pense que. Je donne le point de vue naïf, puis on aura peut-être une réponse plus technique au niveau philosophique, mais on pense usuellement dans l'espace. Ce qui est intéressant dans le plan, c'est que c'est N-1. Voilà. C'est que tu vois, l'espace c'est trois dimensions, le plan c'est deux. Donc je trouve que si tu penses caricaturalement le chaos comme quelque chose de tridimensionnel, mais c'est purement, non pas métaphorique, parce que là encore ça serait très mal vie, n'est-ce pas, une séance deleuzienne, mais enfin, c'est une coupe quoi.
Enfin, ça fait référence effectivement à Gauss, au travail de Gauss, de géométrie intrinsèque, à la limite. La notion de plan n'a de sens que de ce point de vue-là, donc exactement ce que tu disais, mais sinon effectivement ce n'est pas du tout une réalité bidimensionnelle. Étant donné tout ce que déjà on a dit sur le plan de l'immanence. Et surtout, non, ce que j'ai exposé en introduction rapidement, mais c'est faut arriver à le voir comme une réalité, c'est peut-être ça le plus dur, c'est que c'est pas du tout une réalité épistémologique. Disons qu'elle est de façon indissoluble, à la fois épistémologique et ontologique. La nature s'organise selon divers plans. Par exemple, je voudrais citer juste cette. Et donc, cette
Voilà, c'est pas, c'est juste cette phrase, je vais y revenir, donc sur une notion de ralentissement à laquelle qu'a commencé à développer avec un exemple physique très précis, l'invariance par différents morphismes auréliens. Juste pour cette idée-là, Deleuze et Guattari écrivent, c'est par ralentissement que la matière s'actualise, mais aussi la pensée scientifique, capable de la pénétrer par proposition. Une fonction est une ralentie. Vous voyez, donc on est sur une réalité qui est à la fois gnoséologique, objectif et subjectif. Enfin, subjectif n'a plus, pas vraiment de sens là, mais ontologique, gnoséologique. C'est ça qu'il faut bien avoir en tête quand on pense à Plan. C'est un mode d'être de la nature et pas seulement une façon dont on la recoupe. C'est une façon dont elle se recoupe elle-même.
Je dis juste, qu'est-ce qui motive la métaphore du ralentissement? Parce que c'est pas à prendre, vous l'avez dit, au sens classique.
Parce que je vais le voir. Infinie.
Voilà, mais ça
dans le chaos,
ça on va le voir. Au sens quoi? Non, c'est pas à prendre au sens cinématique. Disons que ce n'est que secondairement cinématique.
Donc c'est quoi le motif qu'on parle quand même de vitesse?
Ben justement, ça va être tout l'enjeu de mon, ça va être tout l'enjeu de mon la variation pure. Effectivement, voilà. C'est le point le plus délicat et qui peut faire le plus, j'en ai bien conscience, bondir les physiciens.
Disons tout de suite que la vitesse infinie ne vient pas contredire la relativité.
Voilà, c'est dit. C'est ça. N'ayez pas peur, que personne ne fuit. Alors. Donc je ne sais pas si vous avez bien en tête les trois problèmes en suspens. Hein, c'est le plan d'immense, l'objet, aucune unification, une totalisation. Quel contenu autre que la multiplicité ou l'infiniment infini lui assigner? Que doit être ce contenu pour produire toute réalité expérimentée et concevable sans donner ni émergence? Et que doit être, que doit-il être? Bon, ça, c'est la troisième question, sera plus résolue par le point d'après, la stratification de la variation. Mais les deux premiers problèmes vont être résolus par ce concept de variation pure. Voilà, qui intervient, alors bon là moi je le conceptualise, je le fais ressortir, mais vous le trouverez nulle part comme ça exposé chez Deleuze et Guattari, il y a juste cette phrase, le plan d'immanence est toujours unique, étant lui-même variation pure. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, renversement ontologique fondamental. Deleuze et Guattari transforment à suite de Bergson la question ontologique fondamentale énoncée par Leibniz. Il demande, ça c'est vraiment le point central qui explique la notion de variation pure. Il demande non pas pourquoi les choses varient, non pas pourquoi ça change, c'est-à-dire pourquoi il se passe quelque chose plutôt que rien, mais pourquoi tout ne varie pas ou ne change pas sans cesse. C'est-à-dire pourquoi il ne se passe pas toujours quelque chose, mais parfois rien. Alors, ça c'est vraiment un renversement qui n'énonce pas comme tel, mais qui est au cœur de toute la pensée de Deleuze Guattari, tout en découle.
Ça, c'est une affirmation un peu contestable. Parce qu'on a l'impression qu'il se passe toujours quelque chose. On n'a jamais vu qu'il ne se passe rien.
Oui, mais justement, il se passe toujours quelque chose, mais pas au sens de la variation pure. C'est-à-dire, il n'y a pas une espèce de contingence radicale qui fait que table se transforme, tout s'envole. Enfin, on est quand même dans un régime de loi et de stabilité, de stabilisation de la matière, il y a des invariances, oui, il y a des invariances et il y a des lois qui sont fondamentales. Là, on se situe dans un cadre.
Moi, je suis fondamentalement pas d'accord avec ça. Parce que justement, les lois, c'est très exactement ce qui cherche à trouver de la permanence dans ce qui se passe. Mais il se passe toujours quelque chose.
Il se passe pas quelque chose au sens où tout varie sans cesse. Non, on peut pas dire que tout varie sans cesse, précisément.
Pas les lois.
Pardon ?
Pas les lois, pas les invariants.
C'est même les lois d'ailleurs finalement, mais justement.
Oui, mais ça dépend à quel niveau.
Ça veut dire que les lois sont contingentes, si j'ai bien compris.
Oui, alors.
Donc c'est exactement une autre manière de dire qu'elles varient.
Oui.
Donc même les lois, c'est.
Oui, non, mais de ce point de vue-là, non, mais c'est juste pour. C'est à la limite, hein, une certaine conceptualisation de la physique, tout ça, ça peut paraître comme une évidence, mais bon, c'est pas l'évidence que l'on a quand on a plutôt le sentiment d'avoir affaire à un monde stable avec des permanences, avec des De toute façon, ce qui est important, c'est que ça change justement ce qui doit être expliqué. Ce qui doit être expliqué, c'est pas le fait, parce que souvent, le problème, c'est que on va dire bien sûr qu'il y a de la variation, mais on va toujours l'expliquer en se donnant une permanence initiale, en disant on va comprendre pourquoi cette permanence varie, etc. Mais là, précisément, c'est l'inverse. C'est ce que j'appelle le principe de Darwin. Donc là, c'est l'idée que la variation des choses n'est pas ce qui doit être expliqué. mais ce à partir de quoi tout ce qui est à commencer par les choses doit être expliqué. Le fait qu'il y ait des choses, par exemple, doit être expliqué par la version pure et non pas le fait que des choses sont là et après expliquer pourquoi elles varient, pourquoi. C'est une espèce de c'est le seul donné, c'est le seul donné à la limite, c'est le voilà le fait que tout varie sans cesse en soi. Il n'y a pas d'explication à donner à ça. Ça quand même enfin on va le voir, c'est quand même ça viole des. Ça semble pas, ça semble contredire quelque chose, ne serait-ce que le principe d'inertie, qui est quand même bon, pas pour Marc.
Vous pouvez définir le mot pure, peut-être variation pure.
Oui, ben justement, je vais, bien sûr, comme je vais développer le concept de l'amant, je vais développer ce que ça veut dire. Hein. Pure voulant dire non stratifié encore. Bon, vraiment la pure variation en soi, on va voir. Donc voilà, je propose d'appeler ça le principe de Darwin. Parce qu'en fait, Darwin fut le premier à chercher une explication, justement, non au fait que les êtres vivants varient, hein, comme Lamarck, comme on en était au point où pourquoi il y a de l'évolution, pourquoi. C'est comme ça que la question a été posée, essayer de comprendre, donner une raison à l'évolution. Alors que là, c'est plutôt. Darwin fut le premier à dire bon, voilà, dans l'origine des espèces, ça commence par de la variation des caractères. Hein, il commence par se donner cette variation comme un fait, une sorte d'axiome. Et lui, ce qui va l'intéresser précisément, c'est de comprendre pourquoi ça ne varie pas sans cesse, pourquoi les espèces, les êtres vivants, ne forment pas un continuum de variation, mais des espèces distinctes qui se maintiennent à l'identique malgré cette variation admise comme un fait. Et posé à triton d'axiome. De ce point de vue-là, je vous conseille le très bel ouvrage de Kupiec et Jean-Jacques Kupiec et Pierre Sonigo, qui s'appelle Ni Dieu ni gène, qui explique très bien cette idée. Voilà, je les cite là. Si la variation indéfinie est le fondement de ce qui se passe dans la nature, pourquoi y a-t-il de l'identique, de l'homogénéité? Pourquoi ne baignons-nous pas dans un flou absolu créé par le continuum de toutes les formes variant à l'infini? La réponse est précisément la sélection, qui laisse certaines formes se multiplier plutôt que d'autres, créant ainsi des groupes d'êtres vivants identifiables. Voilà, ça s'inspire de ça, de ce point de vue.
Juste une petite réponse. Naïvement, la réponse à ta question, c'est qu'il y a de l'ordre.
Oui, mais l'ordre doit être engendré, précisément. Ce qu'il faut comprendre, c'est pourquoi il y a de l'ordre.
Tout à l'heure, j'ai cru comprendre que vous niez l'existence d'ordre dans la nature.
Si, à titre de résultat, de produit, mais pas à titre de. Pas à titre de fondement des choses, quoi. Voilà. Mais, enfin. Évidemment, il ne s'agit pas de dire il n'y a pas de loi, il n'y a pas d'invariance, il n'y a pas. Justement, mais c'est la variation pure et le fondement, le seul fondement qui ne doit pas être expliqué, mais ce à partir de quoi tout le reste doit être expliqué. Donc, toute apparition d'invariance, toute apparition d'ordre, toute apparition de limitation, justement, de la variation infinie, on le verra, doit être expliquée. Même si elle est contingente, même si elle est aléatoire, elle est toujours un résultat et non pas le donné initial. Alors, c'est un point que m'a soufflé Aurélien, de reconstruction de l'idée, avec le paradigme darwinien, les trois étapes dans l'appréhension du mouvement, du changement, qui déterminent autant de révolutions scientifiques et philosophiques. On pourrait dire, voilà, d'un côté, d'où l'idée de progrès de la métaphysique, mais qui vient aussi là de. Directement lié au progrès de la science. D'abord, l'idée Aristote, toute chose tend au repos absolu, à retrouver le lieu qui est le sien. D'où la distinction du mouvement naturel et du mouvement contraint, qui est où la chose est empêchée de retrouver son. Voilà, on part d'une idée que chaque chose, justement, a sa place, d'une idée d'ordre, de cosmos ordonné, et donc tout tend à retrouver cette place qui est son lieu naturel et le repos absolu. Ensuite, première révolution, Galilée-Newton. Toute chose tend à conserver son état. Son principe à la fois le principe d'inertie et de relativité qui rend repos et mouvement inertiel équivalent et toute chose donc tend à conserver son état. C'est pas seulement le repos absolu, mais c'est si elle est en repos, elle est en repos, et en même temps le repos est totalement relatif. Donc c'est l'idée que toute chose tend à conserver son état et en change seulement si une force s'exerce sur elle. Là vous voyez le changement va intervenir par des contraintes externes, une force appliquée au principe d'inertie, à la chose qui reste, qui tend en soi à conserver son état. Mais Darwin, précisément, c'est autre chose. C'est toute chose tend à varier en soi, mais peut conserver son état. Vous voyez, l'idée de conservation de son état lui vient de contraintes externes. Les contraintes externes n'expliquent pas le changement d'état. Les contraintes externes expliquent au contraire la conservation de l'état, du type sélection naturelle. C'est tout le schéma darwinien découle de ce renversement-là. Hein, il ne s'agit pas d'expliquer la variation, il s'agit de partir de la variation et de comprendre pourquoi il y a des espèces identiques, de l'identité. par des contraintes externes de type adaptation à l'environnement, de type voilà, sélection par le milieu. Donc ça, c'est une sorte de cadre de pensée qui est au cœur de Deleuze Guattari, ne le disent jamais, mais en fait, c'est au cœur de toute leur... l'idée de stratification doit se comprendre comme ça, comme une généralisation de la sélection naturelle, de l'idée de sélection naturelle. Voilà, donc c'est vraiment un point central. Bon, j'aurais voulu faire référence aussi à la façon dont... mais bon, je vais peut-être passer... comment ça s'appelle ? Une pensée du principe d'inertie comme étant un résultat justement. J'ai oublié son nom, mais bon, enfin, il développe une idée comme quoi l'inertie c'est V égale C, et toutes les vitesses inférieures à C relèvent du non inertiel, c'est-à-dire d'une fréquence de non-inertie. Il développe ça comme étant une fréquence de non-inertie. J'aimerais retrouver son nom, mais je l'ai...
Donc c'est un physicien ?
Oui, c'est un physicien qui...
Du 20e siècle ?
Oui, qui est proche de...
Ça reste vague.
Oui, non, ça reste...
Mais ça en est...
Jean-Pierre... Non, mais Jean... bon, bref. Je suis désolé, je ne me souviens plus de son nom.
Français ?
Mais... Oui.
Je cherche des gens, Jean-Pierre, depuis le début.
Non, bon, bref. Bon... Passons. Alors, cette dernière révolution née en biologie a une portée tout aussi générale. Le paradigme darwinien, voilà, ça explique pourquoi le paradigme darwinien a peu envahi tous les champs scientifiques. De la neurobiologie, hein, le travail de Edelman, par exemple, sélection neurobiologique, et à la cosmologie. Hein, l'idée de sélection naturelle, je pense que Aurélien va y faire référence avec tout le travail de Smolin sur l'idée de sélection cosmologique. Et c'est parce que ce paradigme, justement, est totalement neuf qu'il est capable d'envahir tous les champs scientifiques. Il combine donc variation aléatoire en soi et sélection déterminée du dehors, et non pas déterminisme intrinsèque et variation expliquée par le dehors. Voilà. Alors, les trois composants de la variation pure, voilà, parce qu'une fois de plus, on est soucieux de savoir de quoi on parle exactement et comment on peut essayer de dire quelque chose sur cette variation pure, de l'approcher sans la laisser dans un espèce de flou artistique. Alors, je propose trois composantes. Donc, la première, c'est l'idée qu'elle ne se prédique pas de quelque chose. Hein, c'est pas, une fois de plus, c'est pas quelque chose qui varie. Parce que, précisément, ça revient, en fait, de vouloir l'expliquer, vouloir expliquer le changement, vouloir expliquer la variation. Et du coup, on l'explique comment ? On l'explique à partir de ce qui ne change pas, justement, à partir d'un substrat donné, comme si le changement était toujours changement de quelque chose. D'un pôle au son contraire au contradictoire, Héraclite Hegel, bon, c'est un peu... je survole là, mais d'un substrat qui change de qualité, Aristote, et même les atomistes, qui sont les plus fervents intéristes, commencent à expliquer la variation de toute chose à partir d'éléments insécables, immuables, que sont les atomes, qui s'entrechoquent et se composent provisoirement. Voilà. Donc on est toujours dans le... on se donne un quelque chose et on va se demander comment il change. Mais précisément, c'est la variation pure ne peut pas, n'est pas la variation de quelque chose. Bergson est le premier, là c'est la rupture apportée par Bergson, le premier à penser le changement sans support sous-jacent, comme la seule substantialité du réel dans toute chose, substrat, qualité ou état n'est qu'une suspension momentanée. Voir la perception du changement dans la pensée du mouvement, voilà, c'est peut-être sans doute l'article qui est le plus radical là-dessus. Alors évidemment on va tout de suite dire, ah oui mais voilà, ça y est, variation pure c'est simplement la durée bergsonienne. Non, précisément, le cadre de pensée a été apporté par Bergson en pensant un changement qui est sans support sous-jacent, mais précisément Bergson va trop vite rabattre la variation pure sur la notion de durée qui en fait est déjà un composé de la variation pure et déjà du point de vue de Deleuze-Guattari une stratification de la variation pure. Mais ce qui est intéressant, c'est voilà, c'est de penser le changement sans support de sous-jacent, sans l'idée que quelque chose type substrat, qualité ou état change. Peut-être que quelque chose qui fait penser à ça, c'est la vision, en théorie des champs quantiques, c'est-à-dire on voit bien qu'en dans les champs quantiques, ce ne sont pas les particules qui sont le quelque chose qui vont varier, c'est le champ lui-même qui varie, bon, même si on est dans le cadre où là, on est quand même dans la variation est prédiquée de quelque chose, à savoir le champ. Mais disons que ce champ qui varie engendre des particules, les fait apparaître, disparaître. Et on ne part pas du tout du point de vue de la particule. C'est juste pour donner une idée de ce que ça peut vouloir dire, variation pure, changement sans support sous-jacent. Pour Deleuze et Guattari, il n'y a pas quelque chose qui varie, donc, mais de la variation pure au sein de laquelle subsiste parfois quelque chose. Ne cessant pas, la variation n'a ni début ni fin, elle est mouvement infini ou de l'infini. Voilà, donc c'est le premier composante, c'est penser la variation pure, c'est ne pas la prédiquer de quelque chose. Seconde composante, peut-être plus complexe et peut-être pas forcément évidente à penser, justement, c'est l'idée qu'elle ne se déroule pas dans quelque chose. La physique moderne et la philosophie classique, Galilée et Descartes, sont nés en réduisant tout changement à un mouvement dans l'espace. C'est dommage que Marc soit juste parti, parce que précisément, je pense qu'il est aussi dans ce cadre de pensée. Tout changement, tout mouvement, pour lui, va se... il le disait la dernière fois lors d'une séance du séminaire, tout est réductible à un mouvement local. Un mouvement local dont on peut expliquer les lois. Mais le problème, c'est que dans ces cas-là, on suppose un espace préexistant comme lieu de déroulement du changement. Hein, si on veut dire que voilà, on se place dans un cadre cinématique. Donc là, c'est pas l'idée. Il n'y a pas de variation pure, évidemment, ne suppose aucun espace préalable. Bon, à la limite, on peut admettre ça. Ce qui est plus compliqué, donc ça, on l'admet avec. Là, une fois de plus, la coupure est apportée par Bergson, qui renoue avec Aristote en pensant le changement en soi. Non comme l'altération d'un soi, hein, chez Aristote, ça reste quand même un substrat qui s'altère, ce qui n'est pas le cas de Bergson, mais comme une transformation en soi, indépendante de tout espace. Ça se transforme en soi. Mais voilà, on est chez Bergson, et alors là, on se dit, d'accord, mais ça se transforme forcément dans le temps. Alors comment ça peut se transformer en soi sans se transformer dans le temps? Tout changement ne suppose-t-il pas, cependant, donc au moins un temps préexistant dans lequel il peut avoir lieu? Mais c'est le même problème, c'est que on va rabattre la variation sur un temps préexistant, sur un temps préalable, et on va la perdre en tant que telle. Donc, parce qu'on va se donner une sorte de dimension supplémentaire, quand bien même c'est une dimension ouverte qui est le temps, pour lequel passé et futur n'ont pas la même... voilà. L'idée essentielle de Deleuze et Guattari, c'est que ça, bon, c'est déjà en partie dans durée simultanéité, hein, c'est l'idée qu'il y a la variation n'a pas de dimension supplémentaire à s'en avoir lieu, que cette dimension supplémentaire soit un espace ou le temps. C'est ce que disait en un sens Bergson aussi, même s'il n'en tirait pas la conséquence dans durée simultanéité. Il dit: ce qui est donné comme mouvement dans un espace de nombre quelconque de dimensions peut être représenté comme forme dans un espace ayant une dimension de plus. Dès que vous avez une dimension supplémentaire, vous rabattez votre variation comme une simple forme. Et ça vaut pour le temps aussi. Parce que précisément, l'idée de variation chez Deleuze et Guattari, c'est la succession n'est qu'une forme de variation. La succession sera précisément la forme que prend la variation quand elle est temporelle. Mais elle peut être aussi intensive, quantitative, superposée, discontinue. Ça varie dans toutes les dimensions, c'est-à-dire ça varie et pas seulement de façon successive. On va le voir précisément, c'est pour ça qu'on va pouvoir rapprocher ça de variation pure de la physique quantique. Et alors, pour cette idée de succession, là aussi, je voudrais me servir de Bergson. C'est là où, à mon avis, il va le plus loin, mais il n'en tire pas les conséquences. Ce n'est pas parce qu'il y a du temps que les états de variation se succèdent. Hein, ce que pense souvent Bergson, il y a du temps et les états de variation se succèdent. C'est parce que la variation a lieu en soi que chaque état ne peut que remplacer le précédent. Et je vais quand même me servir de Bergson, parce que j'ai l'impression que c'est là où il va le plus loin, c'est là où il engendre vraiment cette notion de succession, au lieu de se la donner comme il a l'habitude de se la donner, quand il prend l'exemple du film cinématographique dans durée simultanéité. Alors, il compare l'univers à un film, en fait, en se donnant, voilà, nous allons supposer un univers à deux dimensions. Voilà, il part d'un plan, lui aussi. Ce sera le plan P, prolongé indéfiniment. Chacun des états successifs de l'univers sera une image instantanée occupant la totalité du plan et comprenant l'ensemble des objets, tous plats, dont l'univers est fait. Le plan sera donc comme un écran sur lequel se déroulerait la cinématographie de l'univers, avec cette différence toutefois qu'il n'y a pas ici de cinématographe extérieur à l'écran, pas de photographie projetée du dehors, l'image se dessine sur l'écran spontanément. Bon, alors, là, l'exemple, on a l'impression que ça nous situe dans un cadre pré-relativiste, où on se donne comme ça un temps valable pour tout l'univers. Bon, à la limite, mais c'est juste inhérent à l'exemple qu'il prend. C'est pas ça qui compte, hein. Il faut faire abstraction. Ça, ce qui m'intéresse, c'est que c'est là où il va montrer que la succession se déduit de l'idée du fait que la variation varie en soi. En effet, parce que où tout l'enjeu, c'est si on suppose précisément pas de dimension supplémentaire à l'écran lui-même. Vous voyez, ça varie sur l'écran, il n'y a pas de dimension supplémentaire à ça. Ou dans la mesure où vous avez une variation qui ne cesse pas, où cette variation, où le film trouverait-il à se loger ? Chacune des images couvrant l'écran à elle seule remplit par hypothèse la totalité d'un espace peut-être infini. Là, vous voyez, on a l'impression qu'on est dans un cas de pré-relativisme, mais ce n'est pas ça qui est intéressant. La totalité de l'espace de l'univers. Force est donc bien à ces images de n'exister que successivement. Elles ne sauraient être données globalement. Vous voyez, la succession, il a. Bon, c'est un des rares cas où il engendre cette idée de. Voilà. Et on voit bien quand même qu'il y a. Il y a quand même un. On voit bien que dans ces cas-là, même en pensant le temps comme succession, il se situe déjà dans un. On voit bien qu'il y a, il y a un lien intrinsèque quand même entre espace et temps. On ne sort pas non plus de l'espace-temps, puisqu'on est obligé de se donner cette espèce de plan bidimensionnel qui est une sorte d'espace pour comprendre comment sur cet espace ça varie en soi, et puisque ça varie en soi, ça se succède forcément sur cet espace. Mais voilà, si on n'a pas un espace et si on n'a pas. On peut très bien penser une variation qui est sans succession, quoi, qui ne se déroule ni dans un espace ni dans un temps préalablement donné. Bon. Voilà, c'est un point essentiel, je ne sais pas si c'est très... Bon, alors, troisième point de la variation pure, elle n'est en rien déterminée sinon à varier, cette idée d'une contingence intrinsèque, d'un aléatoire intrinsèque. Le principe de Darwin nous oblige en effet à considérer comme nécessaire et donc incessant le fait que ça varie, mais non pas à considérer que ça varie de façon nécessaire. Ça, c'est un point développé par Quentin Meillassou, un très grand métaphysicien contemporain, qui écrit dans le principe de finitude, qui appelle ça le principe de factualité, c'est-à-dire l'idée sur laquelle l'existence de la contingence constitue la seule et unique nécessité. Il n'y a pas d'étant nécessaire, la seule nécessité, c'est la nécessité de la contingence. Il y a de la contingence et c'est là la seule nécessité possible. Voilà. Donc c'est la même chose avec l'idée de variation. Ça varie en soi, voilà, c'est la seule chose nécessaire, mais ça n'implique pas que cette variation soit elle-même nécessaire. La variation pure est la seule métaloi impliquant de ne tenir aucune loi pour nécessaire ni aucun invariant pour donné. Les invariants groupes de symétrie, fondamentaux pour la physique contemporaine, n'ont ainsi pas de raison d'être le fameux de la nature et exigent d'être conçus comme la stabilisation d'une variation plus fondamentale. Aurélien faisait référence aux brisures spontanées de symétrie. Et voilà, c'est comme une justification métaphysique de cette idée-là. Sauf que, à la limite, la brisure spontanée de symétrie continue à présupposer une symétrie plus grande que toutes les symétries sous-jacentes. Voilà. Mais au-delà de la symétrie, il y a de la variation pure aléatoire. Il n'y a pas de raison que le fameux de l'histoire, ce soit une supersymétrie. Type E8, enfin des groupes comme ça, très 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 vastes, dans lesquels on voit bien les problèmes que ça pose. Après, on se crée plein de particules qui n'existent pas, etc. Bon, d'où l'idée aussi, peut-être, là je me lance, mais l'idée que c'est peut-être intéressant d'utiliser des catégories comme objet mathématique fondamental plutôt que des groupes de symétrie.
C'est dommage que Marx soit plus là.
Voilà, c'est dommage que Marx soit plus là. Non, mais l'idée que, précisément, c'est très naïf, très intuitif, mais les catégories, c'est comme une façon d'approcher la variation pure. Ce qui compte, c'est le morphisme, c'est pas le point de départ ni le point d'arrivée, mais la transformation elle-même. Bon. Donc ça justifierait le fait que les physiciens se dirigent de ce côté. En tout cas, ça montre que la brisure spontanée de symétrie a une justification philosophique naturelle si on part de l'idée de variation pure. Et bien sûr, on se situe au sein d'un univers donné. Et ce qui est important, c'est ce que va montrer Aurélien, c'est que cette idée de variation pure nous situe nécessairement dans le multivers, c'est-à-dire dans l'infinité des univers possibles dont les valeurs, les constantes et les lois qui définissent chacun sont contingentes. Après, elles répondent à des soucis justement à la fois de sélection cosmologique et de structuration interne, mais dans la variation pure, on se situe en deçà de... Donc bon, si pour Marx c'est une évidence, tant mieux, mais je ne suis pas sûr que ce soit tant que ça, et en tout cas, voilà l'idée. Alors...
Si j'ai bien compris tes analogies, il me semble plutôt que ça justifierait le fait que les groupes U1, U2, U3 ne sont pas nécessaires et qu'on pourrait prendre d'autres. Enfin, il me semble que c'est plutôt au niveau de la loi plutôt que de l'état de l'univers que tu passes.
Je suis assez d'accord avec toi, mais toute l'ambiguïté, c'est justement de faire ce qu'on appelle une loi. Parce que dans ce processus-là, les lois deviennent des phénomènes. C'est peut-être là, tu vois, où il y a une ambiguïté. Parce que si tu te places du point de vue aujourd'hui de la physique des particules, ok, ta loi, c'est le groupe de symétrie que tu viens de décrire. Mais si tu te places du point de vue de l'évolution des lois, donc d'une brisure de, je sais pas, de SU5 en SU2, je crois bien, quoi que ça marche pas, ça aurait pu marcher, si tu places ce point de vue-là, du coup, tu étudies l'évolution des lois, c'est des lois qui viennent des phénomènes. Donc je trouve qu'à partir du moment où tu... je suis d'accord avec ce que tu as dit, hein, mais simplement pour dire qu'il y a une espèce de coalescence, je pense, des deux concepts, dès lors que les lois deviennent dynamiques, elles deviennent phénoménales, quoi.
Tout ce qu'on dit, c'est qu'il n'y a pas de métaloi.
Ou la seule métaloi, c'est la variation pure. Voilà. Que dit aussi Quentin Miassou dans. Voilà. Que la variation soit en soi aléatoire oblige ainsi à trouver hors d'elle la raison d'une telle stabilisation. À trouver hors d'elle l'invariabilité constatée des lois et constantes fondamentales et de leurs valeurs déterminées et déterminantes au sein de notre univers. Tel est l'enjeu de l'idée de sélection cosmologique, qui est développée par rapport à Smolin. Et c'est un point que je vais reprendre dans l'idée d'une stratification. Ralentissement, stratification de la variation pure. Donc c'est vraiment un processus qui suppose que la stabilisation est toujours externe à la variation pure. Et en même temps, c'est ça tout l'enjeu, c'est qu'à la fois elle est externe et en même temps elle doit être d'une certaine façon interne, puisqu'il n'y a pas d'extériorité au plan d'immanence, donc dont le seul contenu est la variation pure. Donc ce qu'il faut arriver à comprendre, c'est comment elle reste à la fois comment elle le recoupe comme un point de vue extérieur qui en même temps reste toujours déjà interne à la variation pure, qui n'est pas la stratification, c'est pas non plus, ça fait pas appel à un processus qui d'un coup serait hors de la variation pure, c'est juste une forme de la variation pure qui recoupe les autres. Bon, peu importe, on va y revenir. Alors voilà, le plus compliqué de l'affaire, peut-être la composante, on a vu les trois composants de la variation pure, mais Deleuze et Guattari en ajoutent une quatrième qui va vraiment leur permettre de définir la notion de chaos, mais je ne commence pas par celle-là parce qu'il faut déjà avoir en tête les autres. Sinon, on a l'impression qu'on se situe précisément dans un cadre cinématique, ce qui n'est pas le cas. On voit bien, là, on tente de penser une variation pure sans espace ni temps préalable. Donc, c'est l'idée quand même d'une vitesse de variation. Voilà. Qu'est-ce que ça peut vous là, si la variation pure exige d'être pensée indépendamment de et préalablement à tout espace-temps dans lequel elle varie, ne serait-il pas contradictoire de vouloir la caractériser non pas seulement comme intrinsèquement infini ou aléatoire, bon ça on l'a vu, on peut se le donner, c'est pas qu'on l'admet, c'est que ça découle de l'idée de variation pure, mais comment on peut la caractériser aussi comme intrinsèquement rapide, sachant que la vitesse est classiquement définie comme le rapport instantané d'un espace sur un temps. Alors, bon, ça c'est un point délicat, j'avoue. Donc cette vitesse, on en admet tout à fait, il faut déjà bien voir, étant donné les analyses précédentes, les trois composantes, cette vitesse n'a rien de cinématique. Elle n'est pas une vitesse de déplacement hein, dans un espace, mais bien une vitesse de variation ou de transformation en soi. Bon, mais l'ennui, c'est que, est-ce qu'elle ne continue pas quand même de mesurer la rapidité d'une évolution, dans ces cas-là, même une évolution en soi, type, je ne sais pas, transformation chimique, type... toutes ces variations en soi, hein, il suffit de penser aux espaces de variation que constituent les champs, l'invariance de jauge, les champs quantiques. Ça, on voit bien que ça varie en soi avant de varier dans l'espace-temps. C'est ces variations, même si dans ces cas-là, on est déjà dans une invariance. C'est toute cette idée de, je sais pas, un neutrino qui se transforme en soi, le neutron qui va se transformer en soi et donner lieu à proton plus neutrino, etc. Bon, on voit bien, cette idée de variation en soi, en fait, elle n'est pas du tout étrangère à la physique. Je veux dire, mais bon, l'ennui, c'est qu'on a toujours l'impression que... ça se situe toujours dans un temps par rapport à un temps extrinsèque. Quoi. C'est même si, précisément, il y a l'idée de saut quantique, on a l'impression que c'est des variations qui prennent aucun temps, précisément. Alors, comment se passer de ce temps extrinsèque pour penser la vitesse de variation et de transformation en soi? Alors là, je propose, ça vaut ce que ça vaut, mais des exemples de vitesse de variation qui seraient saisies de façon purement intrinsèque. Il y aurait déjà le rythme en musique, condition de ne pas le confondre avec la cadence, la mesure ou la fréquence. Le rythme, ça mesurait l'effet perçu d'une variation de durée.
hein, sans se confondre. J'en profite pour signaler que c'est exactement le même problème auquel sont soumis même des Deleuziens orthodoxes qui acceptent comme point de départ l'idée de durée, etc. Ils vont penser des rythmes de durée, et on a toujours envie de demander, mais c'est quoi ces rythmes de durée par rapport à... Est-ce que si on dit qu'il y a des durées plus ou moins rapides ou plus ou moins lentes, est-ce qu'on ne suppose pas un temps extrinsèque par rapport auquel on va mesurer la plus ou moins grande rapidité d'une durée, hein? Donc le problème se pose de façon identique pour les Bergsoniens ou pour les... Voilà, de les Ougatariens. Mais cette idée d'une vitesse de variation nous permet d'aller plus loin. Donc l'idée, c'est toujours penser de façon purement intrinsèque. Il y a un autre exemple, c'est l'idée de rapidité en physique, qui est une autre définition de la vitesse, mais elle est définie de façon... par la seule variation de l'accélération. Elle suppose ni espace ni temps existant, même si on est dans un cadre cinématique. Enfin, la différentielle en mathématiques, hein, qui est vraiment le cœur du calcul différentiel, on peut aussi considérer que ça détermine une vitesse ou un taux de variation en chaque point d'une fonction selon la seule variation de ça ou ces variables. On fait après, c'est effectivement dans le cadre d'une géométrie différentielle qu'on va se situer dans un espace, etc. Mais l'idée de différentielle, là, ne suppose pas de point de vue intrinsèque, c'est une mesure intrinsèque de la vitesse de variation. Voilà, pour essayer de penser que c'est absolument pas étranger à... Il est possible de penser des vitesses de variation qui ne supposent ni espace ni temps. Alors, mais eux, Deleuze et Guattari, évidemment, vont plus loin que ça. Et là, vitesse de variation, une fois qu'on admet ça, là, il faut penser variation à vitesse infinie. Voilà, et c'est pour ça qu'on n'est pas du tout... On viole absolument pas la relativité restreinte. Hein, on se situe dans un cadre qui est avant toute apparition d'une limite qui va justement définir une cinématique, qui va définir une structure d'ordre, qui va définir une causalité, etc. On est dans la variation à vitesse infinie. Donc il s'appuie sur cette idée de vitesse de variation, mais il l'extrait de son cadre métaphysique physico-mathématique orthodoxe en la concevant comme infinie. Hein. Donc du coup, les différentiels, on voit bien, ne peuvent plus se prendre. C'est comme si on était que dans des dérivés qui sont perpendiculaires, qui sont parallèles aux coordonnées, et non plus qui viennent plus limiter. Non, c'est pas bon. Non, mais bon, bref, le fait que ce soit infini, ça fait quand même exploser le cadre. Il y a plus de différenciation pensable. Il manque des... Voilà. Et en plus, c'est une variation infinie, c'est indépendant de toute variable, parce que quand on est dans un calcul différentiel, on se donne toujours une variable, etc. Là, précisément, variation infinie, ça veut dire que c'est la variation d'une variable à l'autre. Hein. C'est la variation des dimensions, c'est la variation des variables, c'est la variation de... Il n'y a pas de cadre préexistant qui est toujours le quelque chose qui varie, quoi. C'est la variation, c'est justement de la variation dont on va extraire des variables, dont on va extraire des limites, dont on va extraire des... Voilà. D'où cette espèce de définition rigoureuse du chaos, variation pure de l'infini dans l'infini à vitesse infinie. Voilà.
Pourquoi tu as besoin de vitesse ? Variation infinie, c'est vachement bien. C'est déjà très bien. Pourquoi rajouter vitesse ?
Parce que précisément...
C'est l'infini l'enjeu, c'est bon. Variation infinie, on comprend, ça veut dire infini sur toutes les dimensions.
Je comprends pas, justement.
Pourquoi la vitesse ?
Pourquoi la vitesse ?
Avec toutes les ambiguïtés.
Je suis d'accord. Je suis d'accord.
Qu'est-ce que ça ajoute? Sinon, l'idée que ça se pense par différence avec les effets de ralentissement, qui sont en fait des compositions de plans. Quoi. Ça dit juste ça.
Précisément.
Entretiens une ambiguïté que tu cherches, que tu avais cherché dès le début à lever en disant que c'est en dehors de tout cadre.
Oui, mais précisément, ça permet de penser le ralentissement comme étant une soustraction par rapport à... Si vous n'avez pas de vitesse préalable, d'où il sort le ralentissement? Il ralentit quoi?
Ça permet de définir un mode d'affrontement possible du chaos.
Oui.
On pourrait dire variation finie pour la science et variation infinie pour, bon, je sais pas, la métaphysique, les gens qui sont sur le plan d'immanence. Mais pourquoi dire vitesse? Je ne vois pas, par rapport à variation, ce que ça apporte. Parce que c'est fini-infini, le couple qui est intéressant.
Ouais.
D'une manière générale, mais je me retiens depuis le début, puisqu'on en parle, j'ai quand même l'impression que dans tout ça, il y a comment dire? On est envahi par des mots connotés temporellement.
Oui.
On parle de choses qui ne sont pas temporelles.
Oui, bien sûr.
Donc ça entraîne des confusions, donc il faudrait changer de vocabulaire.
Ce que tu exprimes là, j'ai traversé cette difficulté. Mais c'est parce que nous arrivons, enfin nous deux, pas tout le monde dans cette salle, mais toi, moi et les quelques autres scientifiques qui sont dans cette salle de formation, presque toutes les phrases sont insupportables à la première lecture. presque toutes. Mais il faut quand même aussi que nous, on se rende compte que tous ces mots ne sont pas exclusivement et même pas historiquement, prioritairement, des mots du domaine scientifique. Si tu veux, l'infini, la vitesse, la temporalité, la dimensionnalité, ont des sens extrêmement, extrêmement bien définis dans un contexte physico-mathématique. Mais c'est nous qui les avons un peu empruntés au langage philosophique. Historiquement,
détournement, s'il vous plaît.
Mais c'est même pas des détournements.
C'est une conceptualisation philosophique à son autonomie propre. Ça détourne rien d'autre.
Encore une fois, je ne remets pas ça en cause. Je pense que ça induit une erreur. Et là, là, je pense que c'est plus grave, parce que quand on parle tout à l'heure d'engendrement, de genèse sans généalogie, c'est pas une genèse. Là, tu parles de variation indépendante de toute variable, c'est du pierdac. C'est une variation indépendante de variable, faut pas appeler ça une variation.
Et je suis pas sûr, parce que c'est pas la variation de quelque chose.
Parce que je pense vouloir.
Non, je suis d'accord.
Perception de ce
qui. Mais c'est l'idée que c'est pas la variation. La variation pure n'est pas la variation de quelque chose. Il faut comprendre comment, au sein de la variation pure, se créent des variables selon lesquelles ça varie. Ouais. Se créent des dimensions selon lesquelles ça varie.
On peut parler des multiplicités des possibles sans faire intervenir ce vocabulaire.
Non mais si je peux résumer ça, on a beaucoup reproché à Lacan et Derrida d'avoir créé beaucoup de néologismes. Moi, je reprocherais à Deleuze de ne pas en avoir créé assez.
Oui, sans doute. Oui.
Voilà. Je trouve qu'il aurait dû moins utiliser des mots du vocabulaire courant. Il aurait dû créer des néologismes, davantage encore qu'il ne l'a fait, de façon qu'on sache bien que les mots qu'il utilise ne sont pas du tout utilisés dans l'acception ni scientifique, presque jamais scientifique, ni même de l'usage courant. Moi, je pense que c'est une source de confusion.
C'est une source de confusion,
mais peu importe, la pensée elle-même ne me sent pas confuse.
C'est pour ça que je vais lentement et que je développe chacune
compréhension. Quand même pour essayer de définir, de quantifier quelque chose comme ça, de quantifier cette multiplicité des possibles, alors qu'on ne peut pas.
On peut la conceptualiser philosophiquement, précisément, c'est ça.
Mais sans la quantifier, genre, se voit.
Non, c'est pas la quantification. À la limite, pour répondre à la question d'Eli, à la limite, peut-être cette idée de vitesse commence à introduire, peut-être l'enjeu, c'est d'introduire un début de quantification, en tout cas, un début de différenciation. Parce qu'introduire une vitesse vers l'infini, ça permet d'introduire un ralentissement, c'est-à-dire des degrés différenciés. Et l'enjeu conceptuel aussi, c'est ce que je vais essayer de montrer après, c'est que ça permet de repenser entièrement ce qu'on entend par temps, quoi. C'est-à-dire parce que là, on se situe, si on veut se situer dans un cadre temporel, dans une variation comme ça à vitesse infinie, ce que je vais montrer, il n'y a que du présent, quoi. C'est du présent sans passé ni avenir, c'est du présent pur. Et encore, bon, c'est une simplification qu'on dit ça, parce que précisément, ça varie dans toutes les dimensions.
Dans le vocabulaire philosophique classique, quoi, tu es en train de décrire l'absolu, ce qu'on appelait l'absolu.
Oui.
Oui.
C'est-à-dire que c'est... Non, mais oui, parce que c'est la seule... Non, je suis en train de décrire la seule, le seul contenu que l'on peut donner au plan d'immanence. Sachant que c'est pas un contenu que l'on puisse... le seul qui ne nous ramène pas à l'unité, qui ne nous ramène pas à un donné, c'est la variation pure. Voilà, c'est la seule substantialité qui ni donnée ni, ni et qui en même temps est capable de tout engendrer. Voilà. Elle est ni donnée ni capable de tout engendrer, et il faut comprendre que tout s'engendre comme une soustraction de ça, sans que rien ne s'ajoute à ça. C'est ça le point le plus fort. C'est pour ça qu'on reste tout le temps dans l'immanence. C'est pour ça que, d'où l'idée de ralentissement. Si le ralentissement on le prend comme ça, bon, c'est intéressant, mais on voit pas bien d'où ça vient. Si on voit que le ralentissement, ça suppose un autre concept de vitesse, alors je suis d'accord que c'est assez délicat.
Parce que le problème n'est pas sur l'immanence.
Non, l'immanence, oui, alors bon, ça je le développe pas, mais alors l'immanence, les concepts vont eux-mêmes à vitesse infinie et ils font des... Bon, mais ça, je ne sais pas l'idée là de développer ça, mais précisément pour Deleuze et Guattari, le plan d'immanence ne renonce pas à l'infini. Par contre, la science a besoin de renoncer à l'infini. Quand je dis elle a besoin, c'est parce que le monde lui-même a besoin de renoncer. C'est à la fois gnoséologique, épistémologique et ontologique. C'est le monde lui-même qui a besoin. C'est-à-dire qu'il renonce à l'infini en tant qu'univers.
en tant que, au moment où des choses subsistent, restent dans cette variation pure, c'est qu'il y a une renonciation à l'infini. C'est pas un sens, au sens psychologique, hein, mais je veux dire, il y a une soustraction de l'infini.
Ce qu'on peut retenir peut-être, là, d'après ce que tu as dit là, et peut-être pour clarifier les embrouilles, disons, vraiment sémantiques quoi, sur le mot vitesse, disons, on pourrait proposer de remplacer vitesse par un mot qui est plus neutre, moins connoté scientifiquement, qui est tension, qui serait le vocabulaire bacchonien, qui dirait, il y a le point de vue de l'absolu, c'est un état où les choses sont infiniment tendues, c'est-à-dire dans un état de variation constante, infinie, et sans support, etc. D'accord. Et puis il dit, effectivement, toutes les formations, toutes les stabilisations sont des formes de détente, de relâchement.
Ouais, mais bon, moi, c'est le même problème.
D'un passage par degré de l'infini au fini, ce qui, métaphysiquement, est une aberration. Dans un certain cas,
je suis d'accord, de toute façon, ça recoupe cette idée-là, mais moi j'ai un problème avec. Bon, à la limite, ça pose des problèmes pour des physiciens, c'est l'usage de vitesse infinie, mais tension détente, moi, c'est trop psychologisant, quoi. C'est trop psychologisant, donc ça me convient pas plus. Hein, voilà, c'est le problème de Bergson, toujours.
Bon. C'est le problème de méthodologie, c'est-à-dire qu'on veut mobiliser l'imagination. Avant de s'être rassuré de la solidité conceptuelle.
De
l'axiomatique qu'on veut, l'intuition vient après.
L'intuition vient après.
On essaye de la mobiliser avant.
J'ai pris soin de définir les composantes conceptuelles de l'idée de variation pure avant d'introduire la vitesse, sans faire un saut. Bon, j'ai l'impression de l'avoir fait. On comprend mieux, j'espère, cette belle phrase de Deleuze Guattari, j'ai pas lu du coup. On définit le chaos moins par son désordre, hein, c'était pour faire référence à aussi ce qui est très très intéressant, c'est précisément ils ne partent pas d'une idée de l'idée de désordre ne les intéresse pas, quoi. C'est pas comme ça qu'ils définissent le chaos, hein, c'est ni le chaos au sens de indétermination des conditions initiales, hein, ni au sens de désordre sous-jacent. Donc ça se définit moins par son désordre que par la vitesse infinie avec laquelle se dissipe toute forme qui s'y ébauche. C'est un vide qui n'est pas un néant. C'est marrant comme ils reprennent l'idée de vide chaotique. Je vais essayer d'illustrer, hein, moi, tout ça avec des trucs physiques. Alors ça va vous faire bondir, mais bon, une fois qu'on est là, il n'y a pas de raison de s'arrêter. C'est un vide qui n'est pas un néant.
Excuse-moi, c'est pas mon rôle, mais il reste une heure pour la pause
tout le
reste.
D'accord. C'est un vide qui n'est pas un néant. Tu es contenant toutes les particules possibles et tu rends toutes les formes possibles qui surgissent pour disparaître aussi.
Peut-être en dire moins plutôt que de dire plus vite.
Oui.
Soustraction.
Non. Alors cette vitesse. Non, mais je suis bientôt à la fin. Cette vitesse infinie marque l'impossibilité d'un. C'est deux choses justement pour repenser le temps. L'impossibilité d'un rapport entre détermination, deux choses qui semblent opposées. Et d'un autre côté, des variabilités infinies dont la disparition et l'apparition coïncident. Voilà, c'est d'un côté, il n'y a pas de absence totale de causalité, pas de consistance ni référence de rien, présentisme pur, et de l'autre côté, une espèce de superposition comme ça, où tout semble coïncider. Puis précisément, quand les classiques ont pensé à la vitesse infinie au sens cinématique, ils ont, c'était pour se donner un espèce d'espace comme ça, où tout est simultané, hein, c'est un plan de simultanéité absolue, alors que là, quand on est dans une vitesse de variation, on va se donner une espèce de superposition de l'ensemble des états de la variation qui sont superposés. D'où ma première traduction physique de la chose, hein, on est déjà dans une vitesse infinie qui est dans un cadre limité, dans un cadre physique, mais ça permet, je trouve que le monde quantique permet de donner une idée de ça. Alors, idée de non-subsistance, non-consistance, d'instantanéité pure illustrée par le principe d'indétermination de Heisenberg, liant durée et énergie, c'est-à-dire l'énergie pourra d'autant plus brusquement varier que la durée de cette variation sera brève. D'où se déduisent des fluctuations quantiques du vide. Ça serait pour la première idée, absence de détermination. Évidemment, on ne va jamais vers la durée infiniment brève, mais pour rejoindre la variation pure, il faudrait arriver vers une durée infiniment brève, quoi. D'où l'énergie serait infinie. Bon, il y a toujours une limite, forcément. Et puis l'autre idée, voilà, qui va peut-être faire bondir aussi, mais c'est l'idée d'une coïncidence ou coexistence simultanée d'états incompatibles, de superposition intemporelle illustrée par le principe de superposition dont dépend toute la physique quantique. Le fait pour un système quantique de n'être pas naturellement dans tel ou tel état, notamment là ou là, mais nécessairement avec toute mesure dans tous les états ou positions possibles à la fois. Voilà. Bon, là, on se situe déjà dans un cas limité, on est déjà dans la variation de quelque chose de déterminé, mais on pourrait considérer qu'il y a toujours de la vitesse infinie au sens où ça expliquerait naturellement le principe de superposition, quoi. Tout ce qui est possible l'est en même temps. Voilà. Seconde traduction physique, l'idée d'inflation primordiale éternelle. Parce que voilà, l'expansion de l'univers, ça fait aussi intervenir une vitesse des trop grands qui n'a rien de cinématique. c'est pas magnétique. Du coup, les physiciens pensent une vitesse infinie d'expansion, ça leur pose aucun problème. Et même dans certains cas, on considère que l'inflation peut être pensée comme ça. Voilà, c'est une vitesse d'expansion de l'espace en fonction du temps qui n'est pas extrinsèque. Là, dans ces cas-là, le temps n'est pas extrinsèque puisque c'est ce facteur d'échelle qui sert de paramètre temporel pour tous les autres phénomènes cosmologiques. C'est une autre traduction de la vitesse de variation fondamentale. Cette vitesse est mesurée aujourd'hui comme finie, bien qu'elle tende à accélérer. Mais elle est conçue comme très grande, voire peut-être infinie, bon, même si ce n'est pas imposé par les modèles, à l'origine de l'univers pour résoudre des problèmes internes à la cosmologie. Tout ce qui est homogénéité, platitude de l'espace, etc. Théorie de l'inflation primordiale qui tend à être éternelle et engendrer une infinité d'autres à l'univers infini. Rien ne nous montrera à quel point c'est... C'est un des cœurs d'engendrement du multivers, cette théorie de l'inflation. Et voilà, là, Marc n'est pas là, c'est dommage. Disons que beaucoup de physiciens encore sont réticents à cette idée parce qu'ils considèrent que c'est un peu une hypothèse ad hoc ajoutée. D'un point de vue métaphysique, ça se déduit presque naturellement de l'ensemble des impératifs qui sont ceux de la philosophie, notamment de Deleuze-Guattari, il y a forcément de l'inflation. Du coup, ça permet de repenser les problèmes. Là encore, j'en reste avec deux problèmes en suspens qui seront résolus avec le troisième point, la stratification, ce qu'on aura le temps d'en dire, disons. Comment du fini naît-il à partir de l'infiniment infini, hein? On n'a toujours pas répondu vraiment à cette question, c'est un vrai problème. Et en tout cas, voilà, ce renversement de point de vue peut offrir un regard neuf sur le problème de l'inflation de l'expression accélérée en cosmologie. Ce qu'il faudrait expliquer, c'est moins, là, c'est comme le renversement ontologique type Darwin, ce qu'il faudrait expliquer, c'est moins la raison de cette inflation, de cette accélération, que la raison du ralentissement d'une vitesse d'expansion qui serait en tant que telle infinie. Comment du provisoirement stable ou invariant naît-il à partir de la variation pure? Ce renversement de point de vue offre un principe d'engendrement naturel du multivers comme multitude infinie de l'univers ou stabilisation possible de la variation pure avec l'effet de sélection induit par leur durée propre. Seul subsiste, ça rejoint peut-être rien par là du principe anthropique, pourquoi toutes ces valeurs, pourquoi toutes ces constantes qui font que l'univers est durable, mais précisément, c'est de la sélection cosmologique, seuls subsistent les univers durables, les autres ne subsistent pas, donc c'est pas étonnant qu'on se retrouve au sein d'un univers durable, donc tous les... Non, mais c'est pas une évidence. Donc tous les... Quand on parle de la variation pure, c'est pas du tout une évidence de comprendre l'émergence du fait que quelque chose dur subsiste. Et ça explique les valeurs extrêmement fines de toutes les constantes qui ont des valeurs parfaites pour que justement tout se passe pour le mieux. Voilà. Pour y répondre, donc, Deleuze-Guattari envisage toute cosmogenèse comme le fruit d'un ralentissement ou d'une stratification de la variation. Donc j'y reviendrai dans un troisième point et je laisse la parole à Aurélien en m'excusant pour le temps pris.
On fait une petite pause. 5-10 minutes, vous en avez pour combien de temps encore? Une bonne demi-heure après?
Une demi-heure, on va dire.
Oui.
Il est 4h, on se prend à 4h10, ouais. Et on a 50 minutes, même un peu plus devant nous, on a commencé un peu en retard.
Je passerai vite sur tout ça.
Regarde là. Merde.
Pourquoi vous ne prenez pas des aiguilles en embryogenèse?
Deleuze utilise beaucoup des exemples tirés de l'embryogenèse, notamment dans son... Dans sa première en différence et répétition, tout ça.
C'est pour comprendre, approcher, je vais dire. Ouais. Je suis obligé d'aller tout de suite vers l'embryogenèse, parce que c'est là où il y a le plus grand mystère. En fait, on parle de mystère. De ce qu'on ne peut pas expliquer. C'est ça que je veux dire.
Oui, de ce qu'on peut pas expliquer, et en même temps qu'il est conceptualisé et qu'il n'a rien de...
Oui, mais d'où pourquoi il faut la métaphysique, quoi. La notion d'infini, on avait un peu plus de mal, quoi. Même en embryogenèse, quoi. Mais on peut quand même peut-être... plus prendre de distance avec le temps, d'autant qu'avec la définition là où la variation c'est précisément le changement d'une forme dans une autre forme, quoi, hein. Mais indépendamment du temps externe qui pourrait être le temps de notre montre pour le constater.
Non, c'est sûr. Mais, non, mais là disons que moi, ce dont je me sers dans ces cas-là, c'est l'idée de le paradigme darwinien. C'est vrai que je ne l'ai pas cité, mais non seulement il a envahi tous les champs scientifiques, mais il a déjà envahi le champ entier de la biologie. Ça, c'est tout le travail de Kubiek, c'est de dire le darwinisme est au cœur même de la construction de l'individu.
Ça, je comprends.
Voilà. Ouais, la construction de l'individu, c'est pas du déterminisme génétique, c'est de la variation en soi qui est sélectionnée par des processus, des contraintes externes inhérentes à des contraintes d'adaptabilité.
Ça me pose pas de problème.
Voilà,
de compréhension.
Voilà, c'est ça. Ben oui, non, je sais, mais là, je développe pas. C'est un peu décrit là, dans le bouquin que j'ai. J'ai écrit, je suis beaucoup plus sur la biologie, sur la strate organique, mais là...
Je vais prendre votre référence. Et on le trouve encore ?
Oui, c'est que le premier volume, mais il y a tout ça dedans. Voilà.
Et puis alors, mon autre remarque, mais alors là, je suis beaucoup plus prudent, ça me fait penser à tous les obstacles auxquels s'est affronté Whitehead, quoi.
Parce que c'est peut-être
une des raisons pour lesquelles il a redéfini complètement tout son vocabulaire, etc. Alors le problème, c'est que l'ayant tellement défini, redéfini, qu'après on ne comprend plus non plus. Quoi.
Et ça, c'est un ouvrage d'hommage presque à Whitehead. C'est-à-dire que Deleuze a toujours été fasciné par l'évolution whiteheadienne, justement, qu'elle soit à la fois épistémologique et ontologique, ça l'a toujours fasciné. Et du coup, je pense qu'il a écrit cet ouvrage en hommage à Whitehead. Il y a une inspiration whiteheadienne qui est très forte.
Moi, je la ressens.
Oui, c'est clair.
Je vais prendre la référence de votre...
Allez-y.
Au niveau de qu'est-ce que la biologie de Deleuze, à l'époque du premier livre, je n'avais pas encore de biologie.
Une succession. Pour moi, c'est le seul texte de personne, justement, la succession tangentielle, une succession tangentielle, où tu la donnes comme les deux composantes de la durée, donc aussi la succession et la conservation en soi, et jamais les enfants.
Variation infinie, ça n'aurait pas de sens. Mais variation, le taux de changement, la vitesse de changement, parce que dans la vitesse, ça a une connotation cinématique.
Quand tu dis que
question de l'organe tellement là on aura une activité restreinte en fait, mais tellement haut. Alors je crois que l'arrondissement est une position, si j'ai bien compris, des arrondissements des enveloppes. Donc ils peuvent utiliser, s'ils utilisent arrondissement, ils peuvent utiliser accélération. C'est plutôt arrondissement en fait. Mais je crois qu'il parle, je crois qu'il parle pas de vitesse.
Oui, mais
il parle de rythme peut-être. Oui, parce qu'en fait, c'est un. Vitesse sera un sens effectivement cinématique, pas ici.
Bon, c'est pas mal. Ça crée un mouvement. Oui, je pense que.
C'est une impulsion. On est dans un discours philosophique. Même si on, c'est ça que je pense que c'est là qu'il y a le problème. Nous, on a le problème, c'est que de toute façon, ce mot n'a pas de signification exacte et précise. C'est pas grave. Mais imaginez maintenant un exposé d'un physicien. Un physicien utilise un mot qui n'a pas de signification correcte dans l'explication de chaque mot de physicien, vous avez un symbole, une valeur mathématique. Alors vous avez automatiquement plus en variance, vous avez votre équation de fond, vous avez tout faux. Et dans ce cas, c'est pas si grave parce que bon, ça n'a pas de, comment dire, ça n'a pas de correspondance exacte avec la réalité. C'est ça qui est pas.
Normalement, ça devrait en avoir
une. Oui, normalement. Mais c'est ça, c'est parce que, à mon avis, une philosophie de physique doit être basée avant tout sur les mathématiques, sur les équations. Et avant tout.
Sur les concepts, disons qu'elle doit.
Surtout de
se situer, disons. Connaître et se situer par rapport au concept, oui. Qui même font référence aux équations.
Voilà, ça. Parce que bon, enfin, si on se base 100% sur les équations, il n'y a pas de progrès de vision physique. Voilà. Parce que bon, par exemple, imaginons que 81, par un groupe qui a eu l'idée de l'inflation, il n'y avait aucune équation. Voilà. Il y avait juste un concept, ce que vous avez dit, et derrière ce concept, on a fabriqué des équations. Voilà, c'est tout, c'est surtout ce qu'il faut débattre sur le transfert et en cause. C'est le mieux, il est préférable d'avoir les équations derrière. Mais bon, moi je.
Et là, enfin, je peux le dire, je pense qu'il va très vite. Il va très vite.
Travail sur le coup, beaucoup plus sur les concepts physiques et c'est pourquoi, à mon avis, ma fin de philosophie, comme je dis Platon, pour les philosophes, c'est une mathématique. Mais là, ce n'est pas bon. Parce que si seulement un philosophe n'a pas une background minimum mathématique, vous pouvez passer à côté.
D'avoir des habitudes de précision,
c'est ça. Si vous voulez, moi je j'imagine pas qu'un physicien utilise un exposé de ça. Parce que la précision n'est pas la même. Dans un exposé de physicien, vous avez juste un seul mot. Vous n'avez pas tout à fait exact. Ça se voit tout de suite. Mm-hmm. Et là,
mais encore une fois, je pense que c'est parce qu'il a beaucoup de
choses. Oui,
alors en fait, il devrait faire un quart.
C'est la vitesse aussi qui est en tout cas, moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt visite philosophique. En tout cas, ça donne aussi une
qui est là-dessus, un supplémentaire de l'esprit, parce que bon, non, je ne suis pas physicien. J'essaie d'être physicien. J'ai une approche de physicien, mais bon. Il faut aussi avoir des concepts qui sont complètement irrationnels, complètement illogiques.
Il y a des gens qui sont au départ, qui sont des intuitions.
Oui,
on s'entend. Ça veut dire en tout cas,
c'est pas sûr
de bien saisir. La science, entre la science établie et la science, du coup, mais différente aussi, c'est que celle, par exemple, regarde, c'est pas que les sciences, mais c'est pas ça. Bon, en tout cas, celle du temps est définie. Tout ce qui est fort, c'est physique, c'est pas très large. Même si, par exemple, les gens ont des choses complètement fausses dessus, quand il y a un limite sur les utilisateurs, je peux faire plus de force pour dire quelque chose qui pourrait être bien vu, je pense, dans un texte. Donc voilà, il y a une espèce de terme qui donc qui peut pas avoir dire que c'est juste, on peut dire que c'est faux.
Mais c'est aussi simple que vous appuyez, parce que vous voyez, et ça a mis, je ne sais pas combien, 20 siècles, par exemple.
C'est pas la notion de vitesse, mais c'est pas la
question de vitesse, ça s'entend bien, c'est ça.
Donc on pénètre dans les strates.
On va pénétrer dans l'outil déjà. Après là, on est vraiment à la porte fermée au nez à 17h ou pas?
Tu me fais peur avec ce genre de questions.
Non, ça serait bien si on ait le temps de poser un peu les
questions. Bah oui, c'est ça,
là, on va partir à ça.
Mais là, il y a plein de gens qui vont partir assez tôt. Donc
oui.
L'idée c'est qu'ils puissent assister aussi à la discussion. Voilà, la discussion n'est pas
simple. Voilà. Donc on reprend, c'est ça?
Ouais, on reprend, il faudrait qu'on s'arrête.
On est fini à moins le quart.
Ok. Bon, donc juste un petit commentaire sur le commentaire qui a été fait juste avant la pause. Deleuze considérait que l'aspect le plus vindicatif de l'histoire de la philosophie, c'est précisément quand un penseur vient en contredire un autre en montrant que ses idées sont infondées ou même sont fausses. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de critiquer, évidemment. Mais je crois que, juste le point que je voudrais rappeler, c'est que
cette construction répond à une problématique. Voilà. Alors, la problématique, on n'a absolument pas le temps de l'énoncer en quelques phrases, et je ne serais certainement pas le mieux placé pour le faire, mais si j'y étais vraiment contraint, je dirais que c'est quand même un peu celle de l'univocité de l'être. Voilà. C'est peut-être, pour moi, c'est peut-être le maître concept, tu vois, dans la vision de Deleuzienne. Caricaturalement, c'est une sorte de tradition qui irait de Don Scott à Nietzsche, en passant par Spinoza, et dont le problème serait l'articulation de l'unité et de la multiplicité. Et je dis juste ça parce que on reproche pas à un théorème mathématique de ne pas avoir donné sa tonalité. D'accord ? C'est juste hors propos. C'est pas une symphonie, un théorème mathématique. Il n'a pas besoin de définir sa tonalité. Et il ne faut pas reprocher, à mon sens, à Deleuze, une confusion mathématique. C'est pas son jeu. C'est pas... Non, mais quand tu dis que tu sais tout à l'heure que le problème était mal posé, ou même qu'on ne savait pas s'il était solide, tout dépend du concept de solidité qui sous-tend ton accusation, si tu veux. Et du point de vue de la logique propre, de la logique du sens de sa propre théorie, voilà, je ne crois pas qu'elle soit aussi bancale... loin s'en faut, qu'on pourrait le supposer. Voilà. Alors, en revanche, là, par exemple, je ne serais pas tout à fait d'accord avec Jérôme, mais tant mieux, hein, c'est une synthèse disjonctive, n'est-ce pas ? Ça, c'est quand il dit, par exemple, à propos de quelque chose, ça peut expliquer le principe d'indétermination. Bon, ça, je ne suis pas d'accord, moi, voilà, je ne pense pas que ça puisse expliquer des principes quantiques.
C'est une traduction, ça pourrait être une traduction.
Oui, mais, bon, voilà, pour moi, c'est pas tout à fait correct, voilà, c'est plutôt qu'il y a une espèce de logique du sens, où la physique serait un rouage ou une strate, et c'est intéressant de la considérer comme un des plateaux, voilà, de cette logique, mais certainement pas de considérer que l'axiomatique deleuzienne, qui est quand même effectivement complètement réfutable en doute, après tout on est au pays de Descartes quand même, puisse expliquer la physique. Ça, je le pense pas. Et puis il faut quand même se rappeler que Nomos, qui est l'apanage du physicien, n'est-ce pas, messieurs et mesdames, la loi, ça s'initie aussi primitivement en grec, et c'est Deleuze qui le rappelle, le fait de faire paître ses brebis, ça a quelque chose à voir avec l'activité pastorale et avec le nomadisme, c'est-à-dire aussi avec la variation, avec le changement et donc avec la décontextualisation. Bref, je crois que l'idée de variation pure qu'a présenté Jérôme nous mène directement, évidemment, dans le concept physique contemporain, au concept et aux idées de multivers que je voudrais rapidement présenter, d'abord d'un point de vue strictement scientifique et sans référence à Deleuze. J'ai peu de temps, donc soyons brefs et clairs. Les spécificités de la cosmologie ont été un peu rappelées dans le cadre de ce groupe de travail, mais il faut quand même les rementionner de façon très rapide. D'abord, l'observateur est partie intégrante du système qu'il entend décrire. C'est pas tout à fait un détail du point de vue méthodologique et conceptuel. Ensuite, l'expérience création de l'univers est, sauf précisément modèle d'univers multiple, irreproductible, ce qui vient quand même s'inscrire en faux par rapport à la pratique de l'inférence de loi à partir de l'observation de régularité. Enfin, les conditions initiales ne sont pas contingentes, ou tout du moins doivent être considérées comme intégrées au modèle, parce qu'il n'y a ni extériorité, ni antériorité au système univers. Donc ce que fait toujours le physicien, qui est de considérer que ce qui l'intéresse, c'est les lois, mais les conditions initiales sont extérieures aux lois, il n'y a pas d'extériorité au système univers. Donc le problème des conditions initiales se pose dans toute sa force. Voilà. Plus d'autres, quelques autres difficultés méthodologiques que je n'ai pas le temps de développer. Alors, pourquoi la cosmologie semble prendre aujourd'hui un tournant tout à fait contestable, hein, et sujet à débat, comme toute proposition scientifique, vers les mondes multiples? Bon, d'abord, c'est une idée qui n'est pas tout à fait nouvelle, hein, dans l'histoire de la pensée, loin s'en faut. On la trouve chez Anaximandre, chez Démocrite, hein, toute la tradition atomiste, chez Épicure, chez Lucrèce. On la retrouve à la Renaissance, chez Nicolas de Cuse, chez Giordano Bruno, chez Rabelais, chez Leibniz à l'âge classique, jusqu'en philosophie contemporaine, chez Lewis, mais là, complètement autre chose, c'est vraiment pour le problème technique des conditionnels contrefactuels, et chez Nelson Goodman, dont j'espère avoir le temps de dire quelques mots, qui est un très grand philosophe analytique américain. Bon, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, dans le simple et strict champ de la physique théorique et expérimentale, ce concept refait surface, sous bien sûr une forme qui lui est propre? Pourquoi est-ce qu'on peut penser l'existence d'une sorte de multivers gigogne, de mondes enchâssés les uns dans les autres? Et je dirais même, avec mon petit brin provocateur habituel, que la question n'est plus vraiment de savoir s'il existe un multivers, mais quelle est sa structure. Voilà. Alors, comment ce multivers apparaît? Peut-être en prolégomène, rappeler quand même qu'à mon avis, cette hypothèse est un acte d'humilité, hein, c'est-à-dire que l'histoire de notre compréhension cosmique, c'est celle quand même d'une déconstruction évidemment de l'anthropocentrisme, et c'est celle d'un agrandissement de la sphère des possibles. Donc l'idée du multivers est tout à fait dans cette démarche qui consiste à se rendre compte que quelque chose de beaucoup plus différent encore, de beaucoup plus radicalement autre, est vraisemblable, et c'est d'autant plus viable que les lois qui nous sont aujourd'hui connues, bien connues ou plus spéculatives, y mènent naturellement. Alors, petite hiérarchie rapide des multivers, niveau 1. Alors, ce que j'appelle multivers de niveau 1, donc là, je reprends la classification qu'on a proposée avec Julien Grin et qu'on a d'ailleurs en partie empruntée à Max Tegmark, c'est simplement l'univers infini de la relativité générale. Alors, je ne m'intéresse pas ici aux topologies complexes, hein, je reste dans un cadre simplement connexe, et vous savez que parmi les trois type de géométrie compatible avec un modèle cosmologique, deux d'entre elles, à savoir la géométrie euclidienne, la géométrie plane, et la géométrie hyperbolique, conduisent à un espace strictement infini. Voilà. C'est notre modèle dominant, la relativité générale, qui le produit. Déjà là, il se passe quelque chose de très, très étonnant. Vous voyez, si l'espace est infini, ça signifie par exemple que toute étrangeté que je mesure localement, disons une grande homogénéité, peut être simplement la résultante de ce que nécessairement, mathématiquement, dans un espace infini, où les lois sont supposées être les mêmes et qui est globalement homogène, je dois trouver certaines conditions initiales, particulières, spécifiques, qui peuvent apparaître spécifiques, mais qui sont simplement sélectionnées par un effet de présence de l'observateur. Bon, je vais développer ça de façon un peu plus claire ultérieurement. Alors, ça a beaucoup de conséquences intéressantes. Hein. Par exemple, je peux calculer la distance moyenne à laquelle se situe une copie exactement à l'identique de moi-même, qui doit exister. C'est, je crois, 10 à la puissance 10 à la puissance 70 mètres. C'est grand, mais c'est fini. La distance moyenne à laquelle je trouve une copie exacte de la sphère de Hubble, c'est-à-dire de la définition de notre univers, ce qui nous est causalement corrélé, typiquement à 10 à la puissance 10, à la puissance 120 mètres. C'est d'ailleurs intéressant, ça, parce que ça implique une perte de causalité déjà au niveau classique, vous voyez. Parce que même si je connais parfaitement mon passé, même si j'ai accès à ce méta-point de vue, j'ai une infinité de copies de moi-même qui ont exactement le même passé, hein, qui sont dans le même état quantique strictement, mais qui n'auront nécessairement pas le même futur, puisque les modes cosmologiques qui vont entrer dans l'horizon cosmique à l'intérieur de la sphère de Hubble ne sont pas les mêmes. Donc même du point de vue strictement classique, la connaissance parfaite du passé ne permet pas de connaître et d'accéder à la connaissance parfaite du futur. C'est assez amusant. Bon, multivers de niveau 2, eh bien, c'est par exemple celui de l'intérieur des trous noirs. Donc là, je fais très rapidement. Pour décrire non pas seulement la structure externe, mais la structure interne des trous noirs, on a développé un langage mathématique qui s'appelle les diagrammes de Penrose et de Carter. Et il se trouve que l'extension dite analytique maximale de ces diagrammes de Penrose-Carter montre que pour les trous noirs les plus généraux, les trous noirs en rotation ou les trous noirs chargés, eh bien, il y a plusieurs horizons, et à chaque fois que je croise un nombre pair d'horizons, je me retrouve dans un univers qui est essentiellement similaire au nôtre. Donc je vois apparaître une infinité d'univers. Alors on a beaucoup disserté sur la stabilité de ces ponts, dits d'Einstein-Rosen ou des trous de verre, entre les univers, qui se révèlent être extrêmement instables. Donc l'hypothèse de voyage temporel relève effectivement de la science-fiction, beaucoup plus que de la science mathématiques, il n'en demeure pas moins que l'existence même de ces mondes peut-être artefactuels, hein, peut-être purement fantomatiques, s'oppose. Troisième niveau de multivers, celui des rebonds quantiques, toujours dans les trous noirs. On a largement évoqué... Bon, je suis désolé, hein, je regarde ma montre, j'aurais pu en dire beaucoup plus, mais le temps passe, voilà. Donc on a beaucoup évoqué la gravitation quantique à boucle, en deux phrases, c'est une belle théorie qui tente de concilier la mécanique quantique et la relativité générale, qui montre que les boucles de champs gravitationnels qui apparaissent comme solution de l'équation quantique relativiste de Wheeler-DeWitt doivent être pensées non pas comme dans l'espace, mais comme constituant l'espace lui-même. Dans cette théorie qui est à la fois non perturbative et invariante de fond, on peut montrer que les singularités disparaissent, c'est-à-dire les zones de divergence de la relativité générale, par exemple l'invariant de Ricci, qui est ce par quoi on quantifie généralement l'apparition de singularités en relativité générale, est régulier au sein des trous noirs, et remplace cette singularité une sorte de rebond, c'est-à-dire qu'on a création d'un univers à l'intérieur d'un trou noir, et on peut supposer que chaque univers engendre de nouveaux univers, au prorata du nombre de trous noirs qui se trouvent en son sein, typiquement, vraisemblablement, de l'ordre de 10 puissance 18 pour notre univers, avec une sorte de mécanisme de sélection darwinienne, donc en écho à ce que disait Jérôme, parce qu'il y a une sorte de reprocessing, disons, quantique des lois au moment du rebond. C'est un modèle qui est très facilement falsifiable. Hein. L'état le plus probable, c'est celui qui maximise le nombre de trous noirs formés. C'est donc l'état stable, si vous voulez, de l'arborescence, ça ne s'appellerait pas Deleuze, mais enfin, disons, de la succession, de la généalogie, voilà, c'est plus adapté, de ces univers multiples enchâssés les uns dans les autres. C'est un modèle qui est tout à fait réfutable au sens popérien. Niveau 4 des multivers, celui de la mécanique quantique dans l'interprétation de Everett. Donc vous savez que l'interprétation classique de l'école de Copenhague, c'est la réduction du paquet d'ondes, l'effondrement de la fonction d'onde lors de la mesure. Il y a une interprétation alternative développée par Hugues Everett, dans laquelle, à chaque mesure, en fait, il y a création d'un nouvel univers, ce qui n'est pas aussi échevelé qu'il n'y paraît, parce que cette nouvelle interprétation, qui est très sérieusement discutée par les physiciens, hein, qui est même d'ailleurs testable, comme l'a montré Don Page, qui est un très grand physicien théoricien, bien connu en physique des trous noirs, ne viole pas l'unitarité, qui est un principe très important en physique, qui est conservé par tous les processus physiques connus, y compris l'évaporation des trous noirs, et précisément l'interprétation de Everett est finalement l'interprétation a minima, hein, l'interprétation rasoir d'Occam, si vous voulez, de la mécanique quantique, qui est très intéressante, parce qu'évidemment elle fait proliférer les univers. Il y a un monde où la guerre de Troie a eu lieu, et un monde où la guerre de Troie n'a pas lieu. Niveau 5 du multivers, le plus intéressant, celui de la conjonction de la théorie des cordes et de l'inflation éternelle. Donc, le plus spéculatif aussi, il faut être très clair là-dessus. Alors, l'inflation, vous le savez, c'est un des ingrédients essentiels aujourd'hui du modèle standard cosmologique. C'est une expansion considérable de la taille de l'univers dans les premiers instants qui permet de résoudre la plupart des apories classiques du Big Bang, problème de la courbure, problème des monopôles magnétiques, problème de l'homogénéité, etc., qui, contrairement à ce qui est trop souvent dit, et c'est dommage que Marc ne soit pas là, parce que j'aurais bien aimé polémiquer avec lui sur ce point, conduit à des prédictions tout à fait claires et tout à fait étonnantes, en particulier à un spectre de fluctuations qui est gaussien et presque invariant d'échelle, mais pas tout à fait comme effectivement mesuré par les satellites. C'est quand même une belle prédiction qui est tout à fait corroborée par les mesures actuelles. Cette inflation produit des espèces de bulles d'espace, une infinité de bulles d'espace. Là encore, je manque de temps et c'est pourtant très simple de comprendre pourquoi. Les fluctuations quantiques d'un champ en roulement lent sur son potentiel sont parfois vers le haut, on reste en inflation, parfois vers le bas, on sort de l'inflation, on crée un univers. Et comme bien sûr la quantité d'espace inflatant est toujours exponentiellement plus grande que la quantité d'espace n'inflatant pas, on a un processus de reproduction ad infinum du processus d'inflation lui-même qui devient éternel. En parallèle, théorie des cordes, très spéculative mais très élégante, théorie d'unification, puisque toutes les particules élémentaires y sont réinterprétées comme différents modes de vibration d'une unique classe de cordes fondamentales, théorie qui permet de répondre à un certain nombre de problèmes de physique macroscopique, qui permet de calculer par exemple l'entropie des trous noirs. C'est très impressionnant, bon, pour certains trous noirs particuliers c'est vrai, mais c'est quand même très impressionnant, qui prédit la gravité, hein. Il y a des bosons sans masse de spin 2 dans le spectre d'excitation des cordes, c'est-à-dire des gravitons, c'est quand même aussi remarquable. Théorie qui s'est déployée autour de trois révolutions. La première, c'est la supersymétrie. On ne peut penser que dans le cadre des supercordes. La supersymétrie, c'est un objet technique qui permet de répondre à des problèmes très précis de convergence des constantes de couplage, de stabilisation de la masse de certaines particules, mais qui est aussi un lien conceptuel très important entre le monde des forces et le monde des objets, entre le monde des constituants et le monde des interactions. Ça, c'est quelque chose de très, très radicalement novateur. Deuxième révolution de la théorie des cordes, les dualités, j'ai pas le temps d'en parler, lien entre les grandes et les petites distances, entre les fortes et les faibles interactions. Troisième révolution, celle qui m'intéresse pour ce propos, la découverte du paysage. Parce que le seul petit problème de ce beau jeu mathématique, c'est que la théorie des cordes, des supercordes, ne vit pas dans un espace quadridimensionnel, comme nous en faisons l'expérience, mais décadimensionnel. Il faut donc des dimensions supplémentaires, qu'il faut recourber sur elles-mêmes, compactifier, sans quoi effectivement nous les aurions déjà observées. Et il existe un très grand nombre de compactifier ces dimensions supplémentaires et d'évaluer les flux magnétiques qui les traversent, donnant par la même naissance à un quasi-continuum, quasi-infini, peut-être 10 puissance 500 ou 10 puissance 1000 versions différentes des lois de la physique. Vous voyez cette très belle ironie de l'histoire, cette sorte de métathéorie qui venait en quelque sorte unifier l'ensemble des forces et des interactions devient la plus diversifiée et de loin s'en faut qui n'ait jamais été envisagée dans l'histoire de la physique. Quand on conjugue inflation et théorie des cordes, on a le multivers de niveau 5, autrement dit une infinité de bulles d'univers, peuplées chacune par des réalisations différentes des lois de la physique, en accord avec cette théorie spéculative, hein, il faut évidemment le rappeler. Vous voyez, le multivers, c'est un peu ce que Wittgenstein appelait le monde dans le premier aphorisme du Tractatus, là où tout a lieu. là où tout est le cas. Voilà. C'est ça le multivers, tout se produit quelque part avec des vallées supersymétriques, des zones hospitalières, autre part, autre dimensionnalité, autre contenant, autre contenu, autre structuration, tout est possible, ou presque, dans cette espèce de méta-étrangeté diaprée qui se déploie aujourd'hui. Alors, ce qui est intéressant là-dedans, c'est de comprendre que ça répond à des questions claires. La première, c'est la question de la complexité. Bon, vous savez tous que si les constantes fondamentales de la physique étaient différentes de leur valeur actuelle, ne serait-ce que de quelques pourcents, pour la plupart d'entre elles, il n'y aurait pas de structure complexe, et en particulier pas d'être vivant. Alors, trois explications possibles. On a eu de la chance dans le coup de dé initial. Ça, c'est tout à fait possible du point de vue mathématique, mais c'est quand même un peu étonnant, parce que le sous-espace des paramètres conduisant à l'émergence de la complexité par rapport à un monde absolument uniforme et absolument inintéressant est totalement dérisoire. Deuxième solution possible, c'est la solution à la fois théologique et téléologique. Le monde a été conçu pour que l'homme existe. C'est aussi une solution tout à fait cohérente, mais c'est généralement pas celle à laquelle on s'intéresse dans la pensée scientifique. Et troisième solution possible, eh bien, c'est celle qui consiste à supposer que les dés ont été jetés plusieurs fois. Voilà. C'est celle du multivers, qui n'est pas inventée de façon ad hoc pour répondre à cette question, qui apparaît naturellement dans nos théories physiques actuellement les mieux comprises, pas seulement les plus spéculatives, mais aussi les mieux comprises, et qui effectivement nous dit, s'il existe une infinité d'univers avec une infinité de lois différentes, c'est tout à fait normal que je me trouve dans un sous-espace du multivers qui est compatible avec la complexité. De la même façon que je ne me demande pas, mais pourquoi l'univers est une planète tellurique ? L'univers n'est pas une planète tellurique, simplement je ne suis pas n'importe où dans le multivers, je ne suis pas au cœur du Soleil, dans l'univers, je ne suis pas dans le vide interstellaire, je suis évidemment dans un lieu qui est favorable à l'existence de la vie, qui est la Terre, et qui n'est pas du tout représentatif de l'univers. De même que notre zone d'univers n'a aucune raison d'être représentative de l'ensemble du multivers. Donc, à destination des physiciens, soyons clairs, le principe anthropique, et c'est une confusion que je voudrais lever parce qu'elle est beaucoup trop fréquente, n'a rien d'un principe téléologique, n'a rien de l'intelligent design, n'a rien d'un principe anthropocentrique ou téléocentrique, pas du tout. Le principe anthropique, c'est presque une tautologie, c'est une trivialité, c'est de tenir compte de l'effet de sélection. Je ne suis pas n'importe où dans l'univers, évidemment non, je ne suis pas non plus n'importe où dans le multivers. Alors la question qui se pose est-ce qu'on fait encore de la science ? J'aurais aimé en parler 3 heures, mais c'est pas possible. Alors la réponse est, premièrement, même si on en reste à une acception popérienne, donc pauvre, de ce qu'est la pratique scientifique, la réponse est oui, le multivers est testable pour une raison simple, c'est pas une théorie, c'est une conséquence de théorie. On teste pas les conséquences, on teste les théories. Il n'a jamais été nécessaire de vérifier toutes les conséquences d'une théorie pour qu'une théorie soit considérée comme recevable. On n'a jamais, et on ne vérifiera jamais la relativité générale dans les trous noirs, ça ne nous empêche pas de l'utiliser. Si un jour, la théorie des cordes, et on en est loin, devenait le paradigme dominant, ou même simplement l'une des autres théories que j'ai mentionnées précédemment, pour des raisons parfaitement testables dans notre univers, elle était effectivement le paradigme dominant, ça serait complètement de l'obscurantisme de refuser cette conséquence inévitable de la théorie qui est l'existence du multivers et qui permet qui plus est de résoudre un certain nombre de problèmes fondamentaux. Bon, donc c'est de la physique popérienne. Par exemple, la valeur de la constante cosmologique qu'on observe actuellement, qui est un des grands problèmes de la cosmologie, est résolue trivialement dans le multivers. La valeur qu'on observe est exactement la valeur la plus probable. Il n'y a plus de problème. Mais évidemment, il faut continuer à penser. Si, je t'assure. Je te donnerai l'argument pendant la discussion après, parce que je vais me faire tuer par Jérôme si je le donne maintenant. Mais ce qui m'intéresse, c'est d'aller un tout petit peu au-delà de ça, c'est-à-dire, oui, d'accord, c'est popérien, mais enfin bon, Popper, ça suffit. Hein, je veux dire, c'est une épistémologie qui plaît beaucoup aux physiciens parce qu'elle est simple, mais il y en a beaucoup d'autres qui sont beaucoup plus intéressantes que celle-là. Elle est évidemment caricaturale. Donc là, moi, je réfère à Bruno Latour, Isabelle Stengers, enfin tout ce genre de penseurs que les physiciens considèrent comme leurs ennemis parce qu'ils ne les ont pas lus, en fait. Hein, repenser la science comme un constructivisme, c'est quelque chose qui est tout à fait qui va dans le sens d'une apologie de la démarche scientifique et pas du tout d'une critique, à mon avis. Et donc, ce que je propose, c'est d'essayer effectivement de prendre au sérieux pour penser cette structure, la gnoséologie globale de l'eugéo-guattarienne, et de voir qu'ici, la variation dont il est question n'est finalement, comme l'a proposé Jérôme, ni de quelque chose, ni dans quelque chose. Dans quoi se déploie le multivers ? Bon, la question n'a pas de sens. Donc c'est une manière très bergsonienne, finalement, de se dire quel est son support. Vous voyez, on a un peu évolué d'une sorte de géocentrisme, héliocentrisme, galactocentrisme, cosmocentrisme, et puis acentrisme absolu. à centrisme absolu, c'est effectivement la proposition du multivers. Alors en particulier, ce que je crois intéressant, c'est qu'on déplace la problématique. Hein. On ne se demande plus pourquoi tant, mais pourquoi si peu. Voilà. Le multivers, et c'est tout à fait exemple de ce point de vue, la question n'est pas de savoir ce qui crée la diversité et l'instabilité qui nous entoure, mais de comprendre plutôt comment cette vitesse infinie, au sens de Leusien, et non plus scientifique cette fois, enfin physique cette fois, s'est cristallisée dans notre bulle particulière d'univers. Alors moi, je trouve que le concept de rhizome, par différence à la racine ou au radicelle, qui est le concept arborescent visuel, est fécond pour penser ce genre de choses. Voilà. De se demander si ce métamonde n'est pas effectivement organisé en rhizome, tout du moins la manière dont on le pense, d'entrer dans une sorte de pensée du désordre, qui est peut-être plus guattarienne que deleuzienne d'ailleurs, et de se demander de voir la physique non plus comme décrivant le monde, mais comme une connexion, comme une manière de l'interroger. C'est-à-dire que la réponse est évidemment non contractuelle, une fois qu'on a choisi la manière de s'immiscer dans cette fonction, dans ce fonctif réel, qui lui est bien évidemment, c'est mon avis, parfaitement arbitraire. Donc la variation pure, c'est ce qu'a montré Jérôme, n'est pas dans quelque chose, ni de quelque chose. Je crois qu'en pensant à partir de cette vitesse infinie, en un sens non cinématique, l'émergence d'îlots de stabilité, le multivers acquiert clairement un sens. Alors l'événement, il se déploie davantage dans la temporalité d'Aion que dans celle de Chronos. Ça, c'est une distinction deleuzienne que j'ai à peine le temps de définir. Mais disons que le temps d'Aion, c'est l'entretemps, c'est le temps de l'événement pur, si vous voulez, en tant que surgissement. Tant mieux, hein, parce qu'il y a des gros problèmes techniques pour définir un métatemps précisément, on ne sait pas faire. C'est-à-dire que pour faire des prédictions dans le multivers, il faut définir une hypersurface globale de type temps, ce qui permet de type espace, pardon, ce qui permet de définir un métatemps, et ça, justement, ça ne marche pas. Donc c'est un bon échappatoire. Et je vais finir ce cours argumentaire pour revenir un instant sur ce qui a été dit précédemment de la covariance. Voilà. Et je voudrais revenir un instant sur l'objection de Kretschmann, qui me semble extrêmement intéressante. Je prends cet exemple parce qu'on a beaucoup parlé de covariance durant ces séances de travail. Vous avez compris ce que c'est, hein, c'est l'invariance par changement de coordonnées. Je voudrais dire que contrairement à ce qui est trop souvent professé, y compris dans les manuels très sérieux de physique théorique, la covariance n'est pas une contrainte qui permet de sélectionner une classe de théorie. Et souvent, bon voilà, on écrit une théorie au hasard, elle a aucune chance d'être covariante, donc l'argument de covariance permet d'éliminer. Ben ça, c'est tout simplement pas vrai. En fait, on peut montrer d'un point de vue mathématique tout à fait rigoureux, et même trivial pour un mathématicien, que n'importe quelle théorie, y compris pré-relativiste, y compris newtonienne et classique, peut être réécrite de façon complètement covariante, vous voyez ? Et ça veut dire quoi, ça ? Là, j'ai vraiment pas le temps, mais ce qu'on fait, c'est que les variables d'espace et de temps absolus, on les définit comme des champs dynamiques et on écrit des équations covariantes pour l'évolution de ce champ qui les fixe à des valeurs particulières. C'est complètement artificiel, mais ça marche. J'ai une théorie covariante qui est pourtant pré-relativiste. Paradoxe, a priori, non. Non, pourquoi ? Parce que la covariance, c'est un langage. C'est pas une contrainte mathématique. Attention, il y a des contraintes mathématiques, ça existe. Hein, soyons clairs, je regarde mon collègue, je suis pas du tout en train de déconstruire la positivité logique des mathématiques. Je dis simplement que dans un cadre physico-déductif, enfin hypothético-déductif de la physique, la covariance, c'est un rapport au langage. C'est un rapport au langage, c'est presque ce que Deleuze et Guattari appelleraient un langage mineur. Ça, c'est un concept qui vient du plateau des postulats de la linguistique, dans Mille Plateaux, c'est-à-dire qu'il s'agit un peu de devenir étranger dans sa propre langue. Vous voyez, c'est ça, devenir étranger dans sa propre langue. C'est que le physicien n'est pas habitué à ça, parce que la contrainte ne vient pas directement d'une axiomatique mathématique, mais que la contrainte vient d'une manière de parler. Parce que la reformulation relativiste de la, covariante de la physique non relativiste est complètement artefactuelle, et on s'en rend compte. Et n'oubliez pas que quand Riemann et Einstein s'intéressaient au même problème, c'est quand même curieux qu'Einstein ait trouvé la solution alors que ses capacités mathématiques étaient dérisoires à côté de celles de Riemann. Ce n'était pas un problème de façon dominante mathématique. Bon, je conclue, je repasse la parole à Jérôme pour reprendre la formulation d'Artaud qui a été conceptualisée par Deleuze. Moi, je m'avancerai à supposer que le multivers, c'est un peu le corps sans organe du chaosmos. Il ne faut pas le faire fonctionner en tant qu'organisme, mais plutôt s'enfoncer dans cette espèce de zone schizoïde où la structure ne peut plus être pensée en tant qu'agencement et en tant qu'interaction entre des parties. Il n'y a justement pas d'interaction entre les parties du multivers. À toi.
Merci beaucoup, Aurélien. Donc il me reste 5 minutes. Juste pour vous dire très rapidement ce que je voulais développer dans ce troisième point, c'était à la fois comprendre ce que veut dire stratification et qui est d'abord un ralentissement qui va contre toute idée d'émergence ou de complexification, qui permet de relire justement en se situant là au sein d'un univers durable qui est le nôtre, relire l'histoire du Big Bang justement, mais comme avec un autre schéma que selon un temps ou selon un processus d'émergence ou de complexification. Et puis par ailleurs, j'aurais voulu revenir, mais bon, ça je vais le faire très très rapidement, sur qu'est-ce que ça implique sur la conception du temps. Qu'est-ce qui reste du temps une fois qu'on a admis la variation pure et qu'on envisage le processus de genèse ou de cosmogenèse comme une stratification de cette variation? Qu'est-ce qui reste des différents temps dont on a parlé au cours de ce séminaire, en fait, des différentes séances? Alors, donc, sur l'idée de stratification, cette petite citation de Mille-Plateau, stratification est comme la création du monde à partir du chaos, une création continue renouvelée. Tu proposais chaologie, et Deleuze et Guattari parlent de chaosmos. Hein, chaosmos, voilà, bon, c'est effectivement peut-être une bonne façon de renommer la cosmogenèse. Alors, donc, comment ça se passe? Donc, déjà, ça passe par un. Donc, stratification répond à la question de savoir pourquoi il ne se passe pas toujours quelque chose, mais parfois rien, en obéissant à l'impératif d'immanence. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que. Comment les lois constantes et paramètres qui rendent un univers et ce qui le compose durable, moi j'insiste toujours là-dessus, cette durée, on va essayer de le comprendre, mais il me semble que c'est déjà la première traduction du principe entropique. Ce que je disais, c'est que seuls les univers durables subsistent. Il y a tout un tas d'univers possibles, mais effectivement, on est forcément dans un univers qui est durable. Et pour ça, ça suppose tout un tas de. Que les constantes aient telle ou telle valeur déterminée et pas d'autres. Donc comment les lois constantes permettent qu'il y ait un univers et ce qu'il compose durable peuvent-ils découler de la variation pure comme étant seulement moins mais non autre, ni plus qu'elle? Voilà, ça c'est toujours dans l'impératif d'immanence, fait qu'on ne peut pas se donner autre chose ni plus que la variation pure. Et c'est pour ça qu'elle doit avoir tout ce qui la compose, la variation pure, enfin la façon dont on l'a caractérisée. Alors donc elle y répond en prenant d'abord la forme d'un ralentissement de la vitesse infinie de variation. Alors là je propose quelque chose, là c'est très spéculatif, mais ce serait comme voilà des effets de coupure finie au sein de l'infiniment infini, que je propose de penser sur le modèle de la renormalisation. Donc bon, s'il y a des mathématiciens férus ici, bon, peut-être me m'arrêter, mais il me semble que c'est un peu ça, c'est la renormalisation, c'est toujours l'idée selon laquelle une variation entre deux infinis équivaut à du fini. Donc ce serait ça, il faudrait penser comme des coupures finies au sein de la variation infinie, sans supposer qu'il y a un fini qui est en dehors de l'infini, dont il faudrait comprendre pourquoi il est en dehors. Bon, voilà. Alors là, bon ça je le dis plus longuement dans l'ouvrage, là, j'essaye de définir les trois composantes de ce ralentissement, comprises comme des coupures aléatoires au sein de l'infini. D'abord il y a l'apparition de limites structurantes, hein, détermination des constantes, etc., dont C qui va être une structure d'ordre, une structure constante d'espace-temps, etc., G, H, K, bon voilà les coupures que constitue la constante de Planck, bon, la gravitation, mais aussi bon, la constante de structure fine, etc. Donc il y a des limites structurantes et qui vont avoir telle ou telle valeur, justement, c'est peut-être aléatoire, mais à la fin, ce qui reste, ce seront les valeurs qui vont permettre de définir un univers durable. Mais aussi, bon, des variables, degré de liberté de la variation. Bon, là, je ne développe pas, mais voilà, c'est l'idée de. C'est plus intéressant de penser la dimensionnalité, enfin, un espace de variation plus large que simplement l'espace-temps. Et ça commence par des variables définies comme degré de liberté, bon. Et puis surtout les notions d'invariance ou des groupes de symétrie, d'où se déduisent des brisures spontanées, les interactions et les particules élémentaires, voilà, qui sont des formes de stratification, de distinction, de potentialisation de la variation pure. Voilà, ça, c'est les trois composantes du ralentissement. Limite variable invariance. Donc là, je repropose une lecture un petit peu faite à la va-vite et peut-être avec beaucoup d'imprécisions de l'idée de toute cette histoire du Big Bang, justement pour essayer de le penser autrement que comme de l'émergence et de la complexification. Tu faisais référence au fait que les particules élémentaires ne sont pas moindres que après les particules de Mendeleïev, les éléments du tableau, voilà. Il n'y a pas de gain en complexité. Il faudrait plutôt le penser comme une réduction des espaces de variation, une perte en liberté, un gain en évariance. C'est comme ça qu'il faudrait entendre le découplage des interactions fondamentales, la baryogenèse, la nucléosynthèse primordiale, etc. Bon, voilà, pour illustrer ce que Deleuze et Guattari, ce qu'ils écrivent quand ils disent que c'est par ralentissement que la matière s'actualise. Une forme d'actualisation de l'énergie. Alors, tu disais que l'énergie a un côté artificiel que n'a pas la masse, mais bon, en même temps, la masse n'est rien d'autre que de l'actualisation de l'énergie potentielle, qui est une sorte de liberté de variation. Bon. Pareil, pour éviter la notion d'émergence, dans le cas où là on l'entend souvent, l'émergence de la vie, etc., là je me sers de Simondon. qui est, on pourrait citer aussi Deleuze-Guattari sur la bifurcation que constitue la vie, mais bon, Simondon, c'est peut-être le plus clair là-dessus. Donc, ce n'est pas une émergence, le passage du physico-chimique au chimio-organique, ce serait comme un retardement du principe de moindre action, qui est un principe de dépense d'énergie maximale, du fait de la métastabilité des composés organiques. Donc, d'où cette phrase de Simondon, le vital comme, ne serait que du physique en suspens, ralenti en son processus et indéfiniment dilaté. Donc voilà, une sorte de... Du coup, c'est la strate physico-chimique. Après, Deleuze-Guattari appelle ça différentes strates. Et les strates physico-chimiques ou la strate organique ne serait rien d'autre qu'un un rythme différencié, un autre rythme de stratification de la variation, une sorte de ralentissement de la stratification physico-chimique qui obéit au principe de moindre action, qui est de dépense d'énergie maximale. Et du coup, c'est la stratification, c'est pas du tout l'émergence. On voit bien là dans cette phrase de Deleuze-Guattari, il s'agit de se demander non pas comment quelque chose sort des strates, mais plutôt comment les choses y entrent. Déjà, comment il y a des strates, et puis comment les choses entrent comment les strates se nourrissent de ces de cette variation pure. C'est toujours chaque strate étant une nouvelle façon de recouper la variation pure. Elle se ressource à la limite à la variation pure. Et la fait être, il y a plus de variations pures dans la strate organique que dans la physico-chimie, dans le physico-chimique. C'est comme si c'est ce que Deleuze et Guattari appellent bifurcation aussi. Je peux vous citer cette phrase peut-être rapidement. C'est comme si la bifurcation allait chercher dans l'infini chaos du virtuel de nouvelles formes à utiliser en opérant une sorte de potentialisation de la matière. Donc il ne parle pas de métastabilité, mais il parle de potentialisation de la matière. Le carbone introduit dans le tableau de Mendeleïev, classant tous les atomes existants, une bifurcation qui en fait, par ses propriétés plastiques, l'état d'une matière organique. Voilà. Donc voilà, il dit stratification radicalement anti-émergentiste. L'idée de durée aussi. Donc si chaque entité matérialiste dure en forme une ligne d'univers, il faut déjà commencer par penser la ligne que trace l'univers lui-même. Et ça, il est nécessaire d'avoir une inflation, une expansion accélérée qui ne soit pas trop grande pour qu'il se passe précisément, qu'il ait le temps de se passer quelque chose. Qu'il ait le temps, qu'il laisse le temps aux particules élémentaires, au découplage, etc., aux particules élémentaires de se former, à température de refroidir, etc. Bon. Donc du coup, il faudrait penser, justement, pour contre cette idée d'un temps chronologique comme ça, comme entité surplombante, cette représentation chronologique est bien commode, mais qui n'est qu'une convention construite à partir de notre temps propre, hein, depuis l'instant zéro jusqu'à l'instant actuel, en passant par le temps de Planck et toutes les dates, etc. C'est pas comme ça qu'il faut... cette représentation-là, comme s'il y avait un présent, il faut plutôt penser des durées qui s'enchassent les unes sur les autres et se conditionnent les unes les autres, en commençant par les durées infinitésimales des fluctuations quantiques et la durée gigantesque de l'univers qui est due donc à l'expansion qui n'est pas non plus infinie, et ainsi de suite, durée des particules élémentaires, des galaxies, d'une étoile lente comme le Soleil, et du fait que le Soleil est une étoile lente, ça permet justement à la vie à la Terre d'avoir suffisamment de temps pour la vie pour que la vie puisse être en tant que ralentissement du physique, bon, etc. Voilà, donc c'est une espèce de... On en vient à une sorte de déconstruction du temps comme entité surplombante, avec l'idée qu'il n'y a que des variations infinies, hein, parce que la variation, c'est pas parce qu'il y a de la durée qui subsiste au sein de la variation que la variation ne continue pas. De toute façon, elle est incessante. Ça ne cesse pas. Ça, on n'a jamais à l'expliquer. Ce qu'il faut expliquer, c'est comment ça subsiste au sein, voilà. Donc il n'y a que des variations infinies et des durées. Du coup, ça permet de repenser la question du temps. Donc je repars une fois de plus de la distinction de Lautmann entre temps paramètre et temps dimension. Donc d'un côté, ce qu'il appelle temps paramètre, ça renvoie effectivement, je crois que Rovelli a tout dit là-dessus, c'est un simple processus de corrélation entre variables. Moi, je proposerais de distinguer les propriétés formelles nécessaires de ce paramètre d'évolution, continuité, équivalence des instants, peut-être réversibilité, et le caractère complètement contingent du support matériel, qui doit simplement être suffisamment durable. Je fais référence au temps conforme, en espérant ne pas dire de bêtises, sur la dynamique du facteur d'échelle dont les cosmologies se servent en tant que support matériel d'un simple paramètre d'évolution, mais qui ne renvoie à aucune. Le support n'a rien de d'absolu, quoi. Il n'y a pas un support matériel qui serait le temps surplombant, ou quand on parle du temps cosmique. Le temps cosmique, c'est précisément, ce n'est qu'une convention construite à partir du temps propre. Et peut-être aussi, il faut que ce support soit aussi indépendant que possible du système qui sert à paramétrer. Donc voilà, ça suppose simplement un processus quelconque subsistant de façon continue et invariante, ou plus exactement régulière et périodique. Voilà, horloge atomique, etc. Et alors l'autre temps est plus compliqué peut-être à penser, le temps de dimension. Est-ce qu'il faut le penser d'un point de vue géométrique, comme une quatrième dimension de la variété espace-temps, dont on verrait la trace grâce à la signature de la métrique? Est-ce que ce serait un simple effet de la causalité, hein, Marc qui essaye de se débarrasser, qui veut juste retrouver la causalité et en déduire sur une variété nue, qui a certaines propriétés, etc. Et avec une orientation qui serait parfaitement arbitraire, définie à partir d'un temps propre, distinguant le passé du futur, mais de façon complètement conventionnelle. Bon voilà, le problème c'est que c'est toujours en ce moment-là une réalité qui est toujours strictement géométrique, donc spatiale, donc in fine donnée. On en vient forcément au bloc d'univers d'espace-temps, au bloc d'espace-temps comme étant entièrement donné. Voilà, moi j'aimerais penser, mais bon là je vais vite, ça va être. Mais l'idée que c'est justement un effet physique du fait qu'il y a de la durée, des durées. Et c'est là, bon, tu faisais référence à l'idée de relation Deleuze-Guattari, peut-être là, c'est pas dans Deleuze-Guattari, mais c'est là où il faudrait penser le temps comme relationnel, parce que le temps relationnel tel que l'entend Rovelli, à la limite c'est presque évident que ce soit une corrélation de variables, alors là le temps est relationnel. Mais là c'est peut-être plus compliqué à penser, c'est relationnel en un double sens, c'est relationnel de façon locale, pour chaque durée matérielle, elle est en rapport, chaque état de variation de cette durée matérielle est en rapport à ses états précédents. Voilà, bon, c'est des effets de mémoire qui sont différents selon les entités concernées, hein, de la simple inertie à la sélection active, au type de mémoire que nous connaissons. Et le second effet relationnel global, ça fait peut-être, c'est ce que tu retrouvais cette idée avec la remise en cause du principe de causalité, quand tu dis qu'on a des doubles de nous-mêmes à des espaces, si on prend un espace infini, des doubles de nous-mêmes, des doubles même de l'univers visible de l'horizon à des échelles très très lointaines, mais malgré ça, on peut pas prédire le futur parce que justement elles sont pas en rapport avec les mêmes choses autour. Et là, c'est pareil, il y a un effet relationnel global du fait que chaque durée matérielle est en relation avec d'autres. Et bon voilà, moi c'est comme ça que je comprends le temps thermodynamique ou les effets d'irréversibilité qui n'empêchent pas la réversibilité intrinsèque des choses, mais qui sont simplement à comprendre comme des changements, des relations entretenues par un très grand nombre d'éléments, donc chaque élément étant une durée matérielle en soi. Voilà. Donc là je fais référence à l'idée. Bon, l'idée c'est que on est... C'est Élie qui citait ça, le no-futurism, mais je ne sais pas qui est l'auteur de cette très belle formule de la théorie du New Futurism, mais c'est un topos dans les discussions. C'est l'idée, c'est que si on se donne la variation pure, et si on considère qu'il y a que de la variation pure et des durées, on comprend logiquement la symétrie entre passé et futur, parce que c'est le New Futurism, c'est l'idée qu'il y a un bloc d'espace-temps en expansion qui est dynamique, mais qui n'est pas donné. Tout simplement parce que la variation pure varie en soi et elle se succède à elle-même et elle n'est donc en droit jamais donnée. C'est-à-dire, voilà, il y a des choses qui subsistent au sein de cette variation, mais la variation continue à valoir pour chaque entité matérielle, même si il y a des invariances qui sont telles qu'on peut prévoir précisément l'avenir de toutes ces choses-là qui sont déjà inscrites dans leur moment présent. Voilà, ça, il faut arriver à comprendre que cette variation pure nous donne forcément cette, sans supposer un temps surplombant, en ne se donnant que de la variation pure et des durées qui subsistent au sein de cette variation, on retrouve naturellement l'idée d'un bloc d'espace-temps où tout n'est pas donné et voilà, où les durées continuent de varier en soi. Voilà. D'où le côté, j'aime bien le côté punk du no-futurism. Voilà, c'était ce sur quoi je voulais finir rapidement. C'est juste des indications.
Une minute pour une proposition de conclusion qui ouvre le débat.
Voilà,
merci. Donc, merci beaucoup, Jérôme. Je crois que j'aimerais bien conclure pour proposer l'ouverture à un bref débat sur l'idée d'interférence qui est chère à Deleuze et Guattari. Il y a essentiellement trois types d'interférences. Les interférences extrinsèques, c'est typiquement quand le philosophe fait le concept d'une fonction, quand le scientifique fait des fonctions de sensation. Ça peut être extrêmement intéressant. Je crois que c'est essentiellement ce qui a été fait avec brio dans les précédentes séance de ce groupe de travail. Plus étranges sont les interférences intrinsèques, et c'est là-dessus que je voudrais ouvrir la discussion. c'est typiquement quand la discipline reste sur son propre plan et utilise ses éléments, mais qu'elle opère une sorte de glissement ou de surgissement hors de celui-ci. Évidemment, Deleuze donne l'exemple très archétypal du Zarathoustra de Nietzsche. Moi, je crois que c'est parfait pour penser le multivers, ça. Le multivers, c'est exactement ça. C'est quand quelque chose se déploie de l'intérieur, mais qui ne se laisse pas localiser sur son plan préalable. Je m'explique. On peut y voir, je crois, une sorte de moment assez rare dans l'histoire des sciences, une sorte d'événement qui est radicalement non prescriptif, mais qui y renouvelle néanmoins notre rapport à la physique. Il y a quelque chose du mythe, vous voyez, du mythe au sens propre du terme, parce que ces espaces décorrélés d'une autre, ces espaces inaccessibles, sont typiquement des espaces mythiques. Mais ce qui est tout à fait nouveau, c'est que c'est un être au mythe où, pour la première fois, ce n'est pas Moutos qui est premier. C'est Logos, vous voyez, c'est une mythologie où ce n'est pas Moutos qui engraine vers Logos, c'est Logos qui entraîne vers Moutos. C'est de la pensée rationnelle qu'apparaissent ces espaces invisités et invisitables. C'est ça qui me paraît tout à fait intéressant parce que c'est un peu un sortir de ce que Jean-Luc Nancy appelait la tautégorie du mythe. Vous voyez, c'est un mythe qui ne se signifie pas que lui-même. C'est un mythe qui est en prise et c'est, je crois, radicalement novateur avec l'altérité. Donc ça, je trouve que c'est intéressant. C'est à prendre au sérieux, cette idée de plan de référence et d'immanence absolue. Il faut effectivement inventer une coupe du chaos. Vous voyez, et ce n'est pas quelque chose de simple. Là, la coupe du chaos, en l'occurrence, pour moi, c'est de définir une mesure dans le multivers pour pouvoir évaluer des probabilités. C'est exactement ça. Quelque chose est à inventer dans ce qui n'est pour l'instant qu'un désordre. Nous n'avons pas formulé le concept de cet objet. Puis enfin, il y a les interférences illocalisables, qui sont celles qui sont en rapport avec le négatif. Alors typiquement, c'est la pensée du rapport de la science avec de la non-science. La philosophie, écrivait Deleuze, a besoin d'une non-philosophie qui la comprend, elle a besoin d'une compréhension non-philosophique. Le positionnement n'est jamais absolu, c'est typiquement la grande leçon de la relativité générale. Bah, il faut aussi se donner les propositions cosmologiques par rapport à un monde non-scientifique. Pas du tout pour le réfuter, hein, ou pour l'éduquer, c'est pas du tout ça dont il est question, mais vraiment pour s'énerver de ce rapport au non, si vous voulez. Et je fais cette dernière citation, qui est, je crois, la dernière phrase de Qu'est-ce que la philosophie ? Là où les concepts, les sensations, les fonctions deviennent indécidables, en même temps que la philosophie, l'art et la science indiscernables, comme s'ils partageaient la même ombre qui s'étend à travers leur nature différente et ne cesse de les accompagner. Ben, je propose que cette ombre soit exactement ce qu'on appelle le réel. Alors attention, hein, il n'y a aucune allégorie de la caverne dans cette histoire-là, c'est même presque le contraire. Mais je crois que ce qui est central là-dedans, c'est cette idée de renoncer au réductionnisme. Et c'est quand même intéressant qu'on la trouve en philosophie contemporaine continentale, chez Deleuze, mais qu'on le trouve aussi en philosophie anglo-saxonne, chez Goodman, chez Rorty, chez Davidson, chez Putnam. Il y a ça, à mon avis, au moins ça en commun, cette façon de refuser, de renoncer au réductionnisme, et en quelque sorte de donner à la physique le droit de ne pas être la seule version correcte du réel. C'est à nous de rechercher, je dirais, ces traces. Donc cette intuition d'une différence intensive me semble vraiment centrale, et je trouve que c'est une piste à explorer pour penser la physique, pas pour la pratiquer, la pratique, la praxis, elle s'en fiche un peu de tout ça, et on le sait très bien, mais pour la penser, parce que la science, elle s'est toujours comprise jusqu'à maintenant comme justement celle de l'identique et de l'extensif. Voilà, donc je termine sur cette phrase. Le multivers et la gravité quantique, c'était un peu les thèmes de ces séances et de cette séance en particulier, je trouve qu'elles s'insèrent tout à fait, ce sont des idées qui s'insèrent tout à fait dans la logique de la ritournelle, qui est un concept de différence et répétition. Trois étapes, d'abord chercher un territoire pour conjurer le chaos, c'est exactement ça, c'est ce qu'on appelle les lois en physique. Ensuite, se déterritorialiser. On peut difficilement se déterritorialiser davantage, effectivement, qu'en inventant de nouveaux mondes ou en renonçant même au concept d'espace-temps. C'est la grande leçon de la relativité générale, le champ gravitationnel en lieu et place de l'espace-temps. Et troisième étape, la reterritorialisation, autrement dit, inventer les concepts de ces nouvelles fonctions. Et ça reste en grande partie à faire. Merci.